pendant les fêtes de fin d'année, Europe 1 continue de vous réchauffer et vous offre avec plaisir le meilleur d'une bande qui nous fait tant rire.
Laurent Ruquier, toute sa bande sur Europe 1, 15h30, 18h, on va se gêner, la rétro 2011.
Vous êtes nombreux sur les routes en ces vacances de Noël. Prudence, d'autant qu'Europe 1 vous accompagne tout en douceur et en humeur. Le meilleur d'on va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1.
Thierry est au téléphone et lui, Thierry veut se plaindre de ce qui s'est passé dans l'émission au moment où on a reçu Patrice Lecomte dans la partie invité d'honneur. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous n'êtes pas content parce que Patrice Lecomte a fait une plaisanterie sur Dalida, c'est ça?
Ouais, j'ai pas pris ça sur le ton de la plaisanterie. En fait, je suis le président du fan club et j'ai reçu des dizaines de mails à ce sujet.
Vous êtes président du fan club de Dalida, c'est ça?
Absolument, ouais.
Et elle passe souvent vous voir?
Enfin, non.
Pardon.
Mais c'est pas Orlando le président?
Non, attends, non, c'est intéressant.
C'est le producteur Orlando.
Ah, bah, très bien. C'est son frère, surtout.
Enfin, hein. Oui.
Absolument, oui.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Patrice Lecomte?
Qui reprenait des propos en demandant si l'actrice qui allait jouer Dalida louchait, en insistant à plusieurs reprises. Je pense que c'est lui qui a un problème de vision, parce que Dalida, déjà, ne louchait pas.
Non, elle avait un strabisme. elle avait un strabisme.
Elle avait un strabisme, mais qui ne sortait pas tout le temps.
C'est vrai que Christophe Lambert avec une perruque, ça peut faire l'affaire. Hein.
C'est pas très grave, comme. Non, mais vous savez quand même bien que tous les humoristes, à l'époque où même Dalida vivait encore et faisait une grosse carrière, y compris le premier Thierry Leluron que Dalida, je crois, adorait, était sur scène et représentait Dalida avec un léger petit strabisme, voilà.
C'est vrai, mais elle en souffrait quand même pas mal de ce strabisme.
C'est vrai?
Non, mais
une jolie femme comme elle.
Ça, c'est clair.
Ah, franchement.
Non, mais écoute, elle avait une somptueuse silhouette, une magnifique chevelure,
oui.
des mains ravissantes.
Des jambes.
Très beau.
Voilà. Puis c'était génial.
Il se trouve que les yeux n'allaient pas forcément dans la même direction au même moment.
Super
c'est
cul,
pas très
c'est pratique.
Attends. C'était très rare. Hein.
Bah, c'est pratique. Au volant, regardez les deux rétroviseurs en même temps.
Moi, je me souviens exactement de ce que Thierry Leluron disait de Dalida. Il disait, elle a un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui fait attention le chat. c'est pas terrible. Non, mais je vous comprends. Vous êtes fou amoureux de Dalida. Je vous comprends. Vous êtes président de fan club de Dalida. C'est normal que vous la défendiez. Mais...
Et je trouve qu'elle louche pas quand on regarde des vidéos de Dalida. Très souvent, il n'y a pas de problème de louche.
Non, on s'en fiche qu'elle louche ou pas.
Ce qui compte,
c'est que. Voilà.
Mais ce que vous imaginez. Il y a combien d'années que Dalida est morte, monsieur?
24 ans.
Est-ce que vous imaginez que dans 24 ans, il y aura un fan club de Titeuf, par exemple? Non.
Titeuf, je sais pas. Titeuf, peut-être.
Titeuf,
le personnage de BD, je
n'en ai aucune idée.
Non, les gens seront grands, ils seront adultes, ça fera comme avec
Goldorak. Vous ne mesurez pas, Laurent, et je comprends parfaitement, monsieur, bien que je n'appartienne pas à ce fan club, vous ne mesurez pas l'attachement que
vous aimez beaucoup Dalida aussi.
Beaucoup Dalida, et vous ne mesurez pas l'attachement, effectivement, que nous avons pour elle.
Non, c'est vrai, Dalida ne louche pas. Aznavour est très grand. C'est comme ça, quoi.
Caroline Loeb a une bouche droite.
À l'équerre.
Non, mais c'est ça. On a le droit d'être fan. Et on
Caroline Diamant est maigre.
Exactement.
Claude Sarraute est jeune. Et moi, je suis hétérosexuel. Voilà, comme ça vous va, Thierry?
Est-ce que vous considérez qu'hétérosexuel, c'est une tare, Laurent? Formidable.
Pas plus que d'avoir une coquetterie dans l'œil. Voilà.
Pour Laurent, c'est louche, en tout cas.
C'est pas une tare.
Mais arrête, on te dit qu'elle louchait pas déjà. C'est fou, ça.
Il ne faut pas dire que je suis pas vieille.
Quoi?
Je sais plus ce que je voulais dire.
C'est ce qu'on disait, oui.
Ça tombe bien, c'était raccord.
Et
Thierry, il y a combien de membres dans le fan club?
Là, il y a un peu plus de 1200 adhérents.
Ah oui, quand même.
Alors 1200, mais quand c'est Dalida qui les regarde, ils sont 2000.
Oh non!
C'est raffiné, c'est très élégant.
Il n'y a rien à faire, on vous fera pas rire avec ça.
Alors, moi, je rejoins Thierry parce qu'il y a une comédie musicale en ce moment, je ne sais plus si elle est toujours à l'affiche, sur Joe Dassin.
Ouais.
Et c'est pareil.
Ah oui.
La personne qui le fait ne louche pas.
Ouais.
Est-ce que Joe Dassin louchait aussi?
Joe Dassin n'a rien à voir avec les yeux de Dalida. Ouais.
Ah, ça, c'est quand même le plus fort. Là, vous êtes capable de dire que Joe Dassin louchait.
C'est
fou.
Oui, génial.
Ça, c'est énorme.
J'en étais sûr.
Et demain, on va avoir un coup de fil du fan club de Joe Dassin. Hein.
Ouais, Joe Dassin, il louchait pas, c'est quand il regardait son micro qu'il louchait.
Non. La guerre entre les deux fan clubs.
Non, c'est quand il regardait Dalida dans les yeux qu'il louchait.
Quand il chantait du Dalida.
Oh, écoutez, Thierry, vous me faites trop rire. Mais vous êtes génial. Moi, j'aime ça, les gens qui défendent à fond.
C'est beau.
Voilà, ceux qu'ils adorent.
J'invite à tout le monde à aller regarder sur YouTube des vidéos de Dalida pour constater ses yeux.
Et vous avez un léger strabisme ou pas?
Parce que ça vient peut-être de là. Hein.
Il est con, ce petit œuf. Non, écoutez, on est en train de se réconcilier avec Thierry. Parce que, franchement, Thierry, vous ne pouvez pas imaginer à quel point autour de cette table, on a d'abord, je vais vous dire, ce n'est pas compliqué, on a là, en face de nous, le filleul de Claude François.
Ouais, alors, pas de vanne sur l'électricité. Enfin, moi, je suis bien,
d'accord, merci. Florian Gazan, qui était vraiment le filleul de Clo-Clo.
Non,
bien
sûr. Florian Gazan.
Mais vous ne saviez pas ça, Caroline.
Ouais, bien sûr.
Mais attends, non,
c'est le truc le mieux que j'ai fait dans ma vie. Hein.
Ça, c'est
vrai. Regardez Florian, son propre filleul.
Et il est mort il y a combien de temps?
Ah bah, il est mort en 78.
Bah, ne me fais pas calculer, mon petit garçon.
Ah bah, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans quand il est mort.
33 ans.
Il venait d'avoir 10 ans.
Il était beau comme un enfant.
Fort comme un homme.
Fort comme un homme.
Non, mais vous savez, franchement, hein, Thierry, il faut que vous compreniez qu'on peut plaisanter sur certains sujets. La preuve, c'est que Gazan, qui est le propre filleul de Claude François, il plaisante sur le bain et l'électricité.
Évidemment.
L'humour sauve de beaucoup de choses dans la vie, vous savez, Thierry. Noir, vraiment. Enfin.
Hein, ouais, ouais, c'est une façon de voir les choses.
Ben bah, oui, ah, bah, c'est une façon de voir de deux façons différentes, vous voyez, d'un œil et de l'autre.
Pendant 2h30 sur Europe 1, vous relâchez la pression, c'est la rétro 2011 dont on va se gêner.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Marie.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Marie
bonjour.
Est dans le Val-de-Marne, à Brie très exactement.
Oui, 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 pas loin de chez vous.
Voilà, on dit pas Braille, pourquoi pas loin de chez moi, vous dites?
Bah, pas loin de chez vous, enfin d'Europe 1, disons, par rapport à Ludo, qui est un peu plus loin, je crois.
Oui, oui, oui.
Qui c'est Ludo?
Qui c'est Ludo?
C'est pas l'autre auditeur?
Non, c'est Thomas. Eh ben Marie, au revoir, je crois que vous avez perdu le challenge.
Allez bien Marie. Hein, bien.
Faites quoi dans la vie Marie?
Ben, je fais de la paperasse dans un hôpital en attendant la retraite pour le moment.
En attendant la retraite, quel âge vous avez?
J'ai 32 ans.
Oh oui, je me suis dit, elle a une voix vachement jeune. Pour une
et vous attendez la retraite à 32
elle
ans?
Elle a raison.
Vous avez le temps de ranger les papiers. Hein.
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Hein.
J'imagine.
Marie, vous allez donc affronter Thomas, que je vous présente, qui lui est à Courseul-sur-Mer. Bonjour Thomas.
Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe.
Il n'a pas d'amis?
Comment ça, il n'a pas d'amis?
Bah, il court seul sur mer.
Oh, pff.
Putain.
Pas mal.
Non. Oui, elle était nulle.
Alors, les vannes de Pierre Bénichaud dans le corps de Caroline Diamant, ça fait un effet. Eh,
tant que c'est pas moi qui suis dans le corps de Pierre Bénichaud.
Non, l'inverse.
Ouais. Je sais que j'avais un doute.
Vous faites quoi, vous, Thomas, à Courseul-sur-Mer?
Je suis assistant de direction dans un hôtel-restaurant à Courseul-sur-Mer.
Ah, quel est l'hôtel de restaurant? Quel nom?
La Crémaillère.
La Crémaillère. Alors, et à quoi au menu aujourd'hui?
Je ne sais pas, je ne travaille pas aujourd'hui.
Ah bon? Quelles sont les spécialités d'ordinaire, alors, à la Crémaillère?
Des fruits de mer, des poissons.
Ah, faites pas chier.
C'est original.
Au bord de la mer. Oui, enfin, des spécialités, il faut les travailler.
Il y a combien de tables dans le restaurant?
Deux.
C'est un grand restaurant, il y a 150 places assises.
Ah oui, quand même, 150 places assises.
Et il y a vue sur la mer?
Exactement.
Terrasse et tout?
Tout à fait.
Et on se fait pas harceler par les mouettes?
Un petit peu des fois.
C'est quoi ce nouveau restaurant, se harceler par des mouettes?
À chaque fois que je vais au restaurant, je me fais harceler par les mouettes. Attendez. Et Chandon aussi, non?
Qu'est-ce que c'est que je te connais?
Expliquez-nous, Stevie.
Quand je te mange en bord de mer, c'est plus fort que moi. Je donne toujours un petit bout de pain.
Ah bah forcément.
Pour les moineaux. Et là, je vois 150 mouettes qui arrivent. Mais je te jure, elles me font peur.
Mais d'ailleurs, c'est le cri de la mouette. On l'entend. Le cri de la mouette. Stevie. On se demandait ce qu'elle disait depuis des années. C'est vrai, c'est assez bizarre. On se dit, mais quel est ce cri bizarre de la mouette? Et elles sont toutes là à réclamer. Stevie,
c'est vrai, elles me harcèlent.
Elles
me poursuivent et tout.
Elles te suivent jusqu'au Mans et tout.
Non, mais je te jure que c'est vrai, je ne mens pas. Les oiseaux et moi.
Les oiseaux,
les petits oiseaux.
Non, non, c'est Gandhi.
Mais non, mais toutes les bêtes même. Tu peux mettre
toutes les bêtes même.
Non, mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Quand je suis dans un endroit, il peut y avoir trois chiens. Les trois chiens vont être sur moi. C'est vrai.
Et tu confonds pas avec une soirée de la semaine dernière.
Non. Un bail costumé.
Moi, je suis déjà, j'étais fan, mais là, je suis de plus en plus fan de ce mec. Quoi.
Il s'est fait courir après.
Vous avez à côté moi, être aussi fan.
Preuve, même chez toi,
Lann,
il m'a couru après moi. Ouais. Il a pas couru après Christine, il a couru après Caroline.
Oui, mais je lui avais dit.
Il l'avait prévenu.
C'est vrai. Vous avez déguisé pour nous.
Tu dois avoir un bon fluide ou je sais pas.
On vient donc.
Ça, on me l'a dit aussi.
Ou un bon fond.
Les deux.
Mon Dieu.
Et donc, vous avez un âne chez vous?
Deux, j'ai deux ânes.
Sans déconner.
Vous serez invité un jour les jeunes aussi, je vous inviterai chez moi. Ouais.
Mais tu vas voir, c'est très sympa.
Mais pourquoi deux ânes? Mais
tu verras quand tu seras invité.
C'est un cadeau. Enfin, c'est pas un cadeau, elle s'est débarrassée de ses ânes.
Tu parles d'un cadeau, toi.
Oui, non, non, c'est Isabelle Alonso qui a filé ses vieux ânes.
Voilà. Bon, si vous voulez. Voilà, je les ai pris, moi, bêtement, j'avais de la place. Alors, voilà. Mais il y a plein d'animaux, hein. Ils sont là, tous, ils attendent Stevie, d'ailleurs, ils n'entendent pas.
Arrêtez, mouettes. C'est vrai.
Et le mouton,
quand je vais en forêt, je vois des choses que je devrais pas voir.
Par exemple.
Mais tu ramasses des champignons en forêt, non, tu m'étonnes.
Vous voulez dire au bois de Boulogne?
Non, je te jure que c'est vrai. C'est vrai, je vois des choses, des lapins, ils m'approchent. Je te jure, je suis Blanche-Neige en forêt. Je vois tous les animaux qui se ramènent. Normalement, ils devraient avoir peur de moi, je sais pas.
Mais non. Et est-ce que vous arrivez à communiquer? Tu as déjà parlé avec un animal?
Il
n'y
a pas besoin de. C'est le fluide. Une histoire de.
Vous êtes sûr que c'est Blanche-Neige? C'est pas plutôt la bite au bois dormant?
Avec moi, elle peut pas dormir.
Avec moi, elle peut pas dormir. Qui répond, ce con, en plus. Non, mais je rêve.
Bon, allez, c'est
Thomas, vous avez bien fait de venir. Hein.
Tout à fait, oui.
Tout ça grâce à votre terrasse à Courseul-sur-Mer.
Ah oui, putain, on en était là.
Marie est toujours là?
Oui, je suis là. J'ai imaginé Stevie et les 7 nains dans la forêt.
Thomas, Marie, voici la question qui peut-être va vous emmener au domaine d'Auriac, l'hôtel 4 étoiles, relais et château de Carcassonne. À propos de quelle affaire retrouve-t-on le nom dans la presse de Dr. William Stewart Halstead?
C'est un Français?
C'est pas un Français.
Non, mais il a un fluide.
C'est comme avec les animaux, il y a un feeling. C'est un feeling.
Attendez, je vais lui répondre. Le docteur William Stewart Halstead n'est pas français.
C'est comme si tu demandais si Raymond Pichon était allemand.
Attends, il y a des noms bizarres.
Moi, je crois que j'ai une idée.
Allez-y.
Je crois que j'ai une idée.
Attendez, oui.
Il était chirurgien d'Amérique.
Oui, mais alors pourquoi reparle-t-on du docteur William Stewart Halstead?
Une affaire médicale, alors.
Est-ce qu'il est contemporain?
C'est pas le mec.
Vous êtes de la famille de Stevie.
Est-ce qu'il est contemporain?
Contemporain.
Du 19e siècle.
Il est mort en 1922.
Il n'a pas donné son nom à la pince, à la fameuse pince chirurgicale.
Excellente réponse de Caroline Diamant. Désolé, Marie et Thomas.
Mais ouais, je vous ai mis sur la piste. Non, on vous a laissé 1h20. Hein, là, vraiment, j'aurais aimé que vous gagniez. Mais...
Non, mais effectivement, la fameuse pince de Halstead, c'est son nom, vient de ce chirurgien américain. Et c'est cette paire de ciseaux qui s'appelle ainsi, cette paire de ciseaux qu'on a retrouvée dans l'abdomen d'une jeune femme. Pourquoi vous riez?
Parce que t'as vu la photo?
Ah ben oui, c'est terrible. Ben
moi, j'ai la même, c'était un stérilet.
Christine.
Alors d'abord elle a cru à une agrafe, hein, cette pauvre dame qui après 2 grossesses avait subi une abdominoplastie. C'est une opération qui consiste, Caroline, je vous le dis, à retendre le ventre.
Ah non, c'est pas son problème, Caroline.
Ah bon, elle a le ventre bien tendu.
Bien tendu.
Merci petit Jésus. Et en tout cas, elle n'arrêtait pas de se plaindre auprès de son chirurgien esthétique, plastique, hein, parce que c'est quand même...
Ah, c'est un chirurgien esthétique qui a fait ça?
Ah bah oui, forcément. C'est
ah non, je croyais que c'était le chirurgien...
C'est du domaine de la chirurgie plastique.
Il faut voir aussi les journées qu'a dû passer ce chirurgien depuis. Il doit être là, oui. Mais elle est où?
Où sont les ciseaux?
Je sais pas, mais merde alors! Alors, à son assistante, dis-moi, t'as vérifié là, dans les placards, tout ça? Putain, mais c'est pas possible!
Pourquoi il a pas fait le rapprochement entre le fait que sa paire de ciseaux est disparue et le fait que cette dame se plaigne de maux de ventre?
Mais voilà, mais pourquoi il est pas si... Vous croyez pas si bien dire, parce que moi qui regarde quand même de temps en temps les L'urgence. Séries médicales. Mais non, urgent, mais... je regardais pas parce que.
Mais c'est pas possible.
Mais on compte le matériel avant.
Oui,
et après, justement, parce que ce genre de choses arrivent.
Non, mais en même temps, ils en ont plein en même tout temps. Tu vois.
Mais en plus, ils
en ont
pas qu'un.
Mais oui, parce ils sont stérilés. Ils sont stérilés par centaines.
Stérilisés.
Stérilisés.
Europe 1, on va se gêner.
Doremi Faci.
Doremi Faci. Liado.
Serge, bonjour.
Salut Laurent, bonjour à tous.
Les bêtisiers, les bafouillages, bon, des petites choses qui vont nous faire rire, j'imagine.
Voilà,
Serge.
C'est un zapping et la plupart de ces perles émanent des radios locales, wallonnes, françaises et surtout le Jura suisse.
La francophonie radiophonique, on va dire.
Il y avait un quintet ce soir à Vincennes, l'arrivée tout à l'heure, car j'ai oublié la combinaison.
Je crois que ce sont des points de détail, en général, qui font jurisprudence sur ces points-là.
C'était ce monsieur qui nous parlait de quelque chose.
Midi et demi sur Europe 1. Un seul pilote, pourquoi pas, à bord des vols commerciaux. Des vols commerciaux, possible oui, mais pas très sérieux.
Oui, et cela ne plaît guère au syndicat.
De matinée culturo-agricole était de bon augure dans le cadre de la redynamisation. Pas facile à dire.
On en revient à la question que je posais tout à l'heure. Alors, la redynamisation de la foire exposition.
Oui, alors la redynamisation de la foire exposition. La redynamisation des fêtes de Pentecôte.
Le ministre de l'Intérieur assistera aux obsèques du gendarme qui s'est tué mardi lors d'un entraînement.
En 1920, il met en scène, un étudiant pauvre, Zante.
Une minute de titre diffusé suffit à compter ce titre dans les quotas. Et il y a également les vrais faux duos anglais-français qui font aussi gonfler les chiffres.
Et le ciel, quant à lui, sera de plus en plus voileux au fil des heures.
L'opposition a demandé la démission du président Laurent Gbagbo.
En Haïti, les rebelles assiègent la capitale. La France demande au président Aristide de quitter le pouvoir.
Le match qui va pouvoir reprendre, donc 5 minutes de prolongation, selon une vieille formule bien connue, dite de la mort subite.
Tous ces matchs sont évidemment à vivre dans Radio Foutre.
Vous avez peut-être entendu ce matin le récit du concierge du palais présidentiel, recueilli par l'envoyé spécial Thomas Legrand.
Soyez attentifs si vous circulez dans ce secteur, pour éviter des accidents, bien sûr.
On sait que c'est la Saint-Valentin.
Oui.
Ce qu'on sait moins, c'est que le lendemain de la Saint-Valentin, c'est la Saint-Claude.
Demain, comme c'est la Saint-Claude, on verra ce qu'on peut vous offrir.
Problème de changement de comportement sexuel de la femme après le mariage.
Souvent, après le mariage, la vie sexuelle, finit les fellations. Hein. Ah, les femmes se marient pour avoir des enfants. Pas pour les boire.
Pourquoi reparle-t-on dans la presse et à l'occasion de la sortie de quel livre de monsieur Ernst Greffenberg, je dois prononcer.
Attendez, c'est pas belge. Le mec qui a donné le nom au point G.
Excellente réponse de Caroline Diamant.
Ah ouais.
C'est pas Greffenberg.
Je crois que c'était Graf. Alors pourquoi on parle de lui?
Parce qu'il y a un livre qui sort, publié par Odile Buisson, qui est gynécologue.
Odile Buisson, c'est bien pour être gynécologue. C'est un joli nom. Elle l'a bien choisi, celui-là. C'est pas vrai.
Bon grand, arrêtez.
T'as une débroussailleuse.
Faut demander à Bonaldi, ça y va.
Ça, t'as une débroussaille.
Le Buisson ardent.
C'est son nom, c'est pas ma faute.
Oui, bon.
C'est elle, le docteur Buisson, qui publie ce livre. Qui a peur du point G? Le plaisir féminin, une angoisse masculine.
Ah, ça fait peur, en fait.
Aux éditions Jean-Claude Gavzevitch. Et on nous rappelle effectivement que c'est un gynécologue allemand, monsieur Ernst Greffenberg, qui avait émis cette hypothèse de l'existence du point G. Avec, évidemment, on le sait, depuis quelques controverses, existe-t-il vraiment ou pas ce fameux point G? Bon, en fait, il s'agit d'une zone érogène spécifique dans la partie antérieure du vagin.
Ouais. Moi, j'en ai un dans l'oreille.
Je suis avec un coton-tige, c'est incroyable.
Droite ou gauche?
Je suis sûr. Non, mais c'est génial.
Mais il bouge, le point G.
On va l'appeler le point Beaugrand. Il bouge.
Il est pas au même endroit chez toutes les femmes.
Il bouge et il y a une. Il bouge et il y a deux boules en dessous, sinon.
Non, il y a des femmes.
Non, non, non. Je trouve que tu fais d'énormes progrès dans la connaissance de la philosophie, de l'économie, de tout.
Je sais pas, il y en a qui sont.
Mais dans la connaissance du vagin, tu peux pas quand même.
Mais non, t'as des femmes qui sont vaginales et qui sont clitorisées.
Pas Cloto, Clito.
Clodo,
Clodoridienne.
Non mais c'est vrai. Donc ça veut dire que le point G n'est pas au même endroit.
Mais non,
anal.
C'est pas ça, le point G. Le point G, c'est une zone qui est la même partout, celle-là. Voilà. Et après, vous avez d'autres zones.
Oui, c'est comme
enfin,
si
écoutez,
tu disais.
C'est pas moi qui vais vous expliquer l'anatomie féminine.
Non, c'est à peu près au même niveau, mais il faut trouver après.
Il faudrait sortir un bouquin. Stevie vous parle des femmes.
Ben, le point Caroline, G, vous êtes la seule femme ici présente.
Il est où ton point G?
Non, mais. Ah non, je ne répondrai pas à cette question.
Non, mais tu l'as
vous,
trouvé,
vous
non, mais...
allez un peu loin dans la vulgarité, là.
Bah, c'est un livre qu'on trouvera dans tous les relais H. C'est l'étape d'après. Et ça sort, en tout cas. Et c'est signé Odile Buisson.
Mais est-ce que toutes les femmes l'ont trouvé?
Oui.
Ah,
oui.
Les gynécologues.
Enfin, les miennes, oui. C'est ça ou elles rentrent bredouille.
On nous précise, c'est ce que nous dit Odile Buisson, que le point G n'est pas un bouton on-off, mais c'est une région. Voilà, en fait. C'est toute
région. Ah, c'est vaste,
je vous
une
signale...
région.
J'adorerais aller en vacances.
Ouais. Je vous signale qu'aux États-Unis, il paraît qu'il y a des femmes qui se font injecter du Botox
pour grossir la
dans
zone.
Le point G. Exactement. Pour que la zone soit encore plus érogène.
Alors, c'est plus,
et
c'est
avoir
plus
encore
de prendre...
plus de plaisir.
Alors que c'est plus facile de trouver un mec qui a un gros sexe.
Oui, comme ça, tu attaques toute la zone en même
c'est
temps.
C'est pas tellement important, ça. Hein.
On nous disait aussi qu'il n'y a pas d'un côté les chanceuses qui en sont dotées et les malchanceuses qui n'en ont pas. Voilà, non.
Il y a des fainéantes qui n'arrivent pas à le trouver.
Non, mais c'est ça, c'est un investissement. Il faut prendre du temps.
Il n'est pas nécessaire de le stimuler pour avoir une sexualité épanouie.
Ah bon
non.
Mais c'est quand même mieux. Hein.
On ne jouit pas avec son point G, mais avec son cerveau. Voilà. La femme peut aider l'homme à découvrir cette zone de son corps ou s'amuser seule. À la chercher. Voilà.
Mais il y a des sextoys un peu tordus qui permettent de repérer plus facilement, de stimuler plus facilement cette zone.
C'est vrai.
Oui, parce tu vous êtes jamais avoir... demandé pourquoi il y avait des sextoys tordus. Moi, monsieur, je peux vous en parler. J'ai été sextoy pendant 4 ans. J'étais mignon, j'étais. Tu peux pas savoir, j'étais vert d'eau. J'en ai trouvé des points G. Hein. Et après ça, on me demandait c'est où. Tu disais. Mystère.
La glace Baby Gaga vient d'être interdite en Angleterre. Vous savez pourquoi, Christine ?
Lait maternel.
Oh oui, je le sais. Oui.
Alors allez-y, Titoff.
Elle est au lait, à base de lait maternel.
À base de lait maternel.
Si c'est bon pour les petits, c'est bon pour les grands.
Elle était vendue chez un glacier de Covent Garden à Londres. Le commerçant estimait que l'on n'avait rien inventé en matière de glace depuis près d'un siècle et qu'il était temps de faire du neuf. Alors il avait proposé cette glace au lait maternel, parfumée à la vanille et aussi citron, qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas le nouveau-né que je suis aujourd'hui qu'il faut parler de glace au lait maternel. Ça se retourne dans mon estomac, tout ça. Quelle horreur! Ce qu'il y a de bon dans le lait maternel, c'est quand on tète. Mais si c'est pour le boire comme ça, c'est pas intéressant.
Il vaut mieux mettre de la glace normale sur.
Le dessert était pur, organique, totalement naturel. Et l'ingrédient principal venait du sein d'une femme de 35 ans qui était rémunérée au tarif de 18 euros pour 300 grammes de lait.
Il y en a qu'une seule.
Oui, la portion était ensuite vendue 16,50 € au restaurant avec bain de bouche stérilisant en option. C'est quand même étonnant. Hein. Et c'est le conseil municipal qui a finalement enregistré deux plaintes d'habitants.
Maman, je voudrais un peu de lait. Les clients ont tout mangé.
Quelle horreur. Pourquoi pas une bonne glace au lait maternel?
Pourquoi le bain de bouche stérilisant? Parce que ça peut être dangereux. Non, ça peut être
ça. On avait le droit à un cookie avec la glace pour faire passer le goût du lait maternel.
Quoi, le cookie?
Le cookie, devinez.
C'est bien ce que je craignais.
Du papa?
Non, mais enfin voilà. Bon, est-ce qu'il faut pour autant interdire la glace? Bon, je pense que
on dirait une insulte pied noir. Avec quoi allez votre glace avec le lait de ta mère?
Ouais. 79 ans, c'était son anniversaire dimanche qu'elle a fêté, hélas, en service de réanimation à Los Angeles. De qui s'agit-il?
Elizabeth Taylor, évidemment.
Elizabeth Taylor, bonne réponse de Pierre Bénichoux.
Ouais.
Ouais. Elle est sous surveillance intensive depuis près d'un mois au Cedars Sinai Hospital de Los Angeles pour insuffisance cardiaque. Elle a fêté ses 79 ans à l'hôpital. On rappelle qu'elle a été trépanée en 2006.
Si.
Qu'est-ce qu'elle a eu ?
Une grosse tumeur au cerveau et elle continue de récupérer, nous dit-on aujourd'hui. C'est assez triste quand même.
Comment elle va souffler ses bougies ?
Parce que l'air il va partir par le haut.
Non, mais c'est comme c'est surtout pour mettre la pièce montée en intraveineuse.
Si vous aviez vu la couleur des yeux de
Oui, oui, oui.
De
tu les as vus, parce que toi, tu les as vus de près, toi.
Oui, il en est question.
C'est vrai, vous avez croisé Elisabeth Taylor, ouais. Pierre ouais. Racontez-nous.
Mais le mytho.
Elle était mariée avec Mike Todd, qui était son deuxième mari, qui était un producteur de cinéma qui est mort en avion, et au Festival de Cannes, en 1959 ou 60, et au bar du Carlton, il y avait beaucoup de journalistes, et on nous a présenté Elisabeth Taylor, et je dois dire que la couleur violette de ses yeux m'avait fasciné. Moi, c'est pas du tout mon genre de femme. Elle était toute petite, elle était déjà un peu ronde. C'était pas du tout une grande beauté.
Vous lui avez dit non. En gros, c'est vous qui lui avez dit non.
Non, j'ai dit, magnifique. J'ai dit, je vais réfléchir. mais c'est vrai que je l'ai croisée, qu'elle avait les plus beaux yeux, les plus belles couleurs d'yeux du monde.
Voilà. Elle était peut-être déjà malade, c'est pour ça, cette couleur violette.
C'était il y a un an. C'était juste avant qu'elle rentre à l'hôpital.
Ceci explique cela.
Elle était toute violette.
C'était pas
à Cannes, c'était au Canet à côté.
Dans un bar.
C'était pas l'hystéreur en fait.
Je sais pas si j'aurais pas dû arrêter ma carrière à la radio il y a un an pour mes 86 ans. Parce que vraiment, cette dernière année est une horreur.
Gaspard.
Je sais pas, trépaner, ça veut dire quoi? Ils mettent du foin sous la peau, c'est ça?
Non. Plusieurs fois, tu mets dans la chapelure comme ça. Tu as vraiment
beaucoup trépané.
Oh non, écoutez.
Allez, une autre question qui concerne un joueur de cricket, Stephen.
Ça, tu tombes dans ma spécialité.
Ouais. Stephen Davis, qu'a fait Stephen Davis? Il n'a pas joué au cricket, il est joueur de cricket. Il est international de cricket anglais, Stephen Davis. Et qu'est-ce qu'il a déclaré, raconté au Daily Telegraph?
Ça a à voir avec le mariage.
Non, pas tout à fait.
Avec la rouquine.
C'est quoi la rouquine?
La rouquemoute, là, qui a épousé Messi, là.
Il y avait longtemps,
il
y avait longtemps.
Il a couché avec Ferguson ou un truc.
Non, tout le monde n'a pas couché avec Ferguson.
Si elle n'est pas rouquemoute, alors si celle-là, elle n'est pas...
Hein.
Alors, écoute, franchement, tu demandes si elle est rouquine, Ferguson?
C'est la rouquine type.
Non, mais lave-toi les yeux.
Plus rousse, il n'y a pas.
C'est pas possible.
Plus rousse, on ne fait pas.
Ça a à voir avec la famille royale d'Angleterre?
Du tout. L'international de cricket anglais, Stephen Davis, a fait
une allusion raciste à la couleur de peau des autres champions de cricket?
Non, pas du tout.
Mais c'est lié à son sport?
Il a dit que les terrains étaient trop grands ou trop petits?
Non.
Il a du soutien de qui?
Il a dit que la femme du capitaine couchait avec l'avant-centre?
Non, ça il s'en fout. Alors, manifestement.
C'est une affaire de mœurs.
Ah, il est pédé.
C'est-à-dire qu'il a...
Il a fait son coming out.
Il a fait son coming out qui est très rare chez les sportifs de haut niveau. Bonne réponse de Christine, bravo. Il a fait son coming out. Il a dit qu'il était hétérosexuel. Non, parce que les joueurs de cricket ne doivent pas non plus. Si, je vois pas bien en fait moi non plus mais ce sport.
Je crois que c'est violent le cricket. C'est vachement physique.
C'est pas un sport de PD quoi.
C'est pas le croquet. Ça a rien à voir avec le croquet.
Le croquet, c'est.
Alors on sent le caillot du Havre.
Le croquet, c'est avec
les arceaux en métal.
Il a reçu un Noël. Il a reçu un jeu de quilles.
Le croquet, c'est 12 personnes qui jouent dimanche après-midi chez leur grand-mère.
Mais il n'y a pas de qui au croquet.
Tu as reçu
des maillets. Moi, on m'avait offert.
Avec des boules.
La boule au milieu des
petits. Et des petits arceaux.
Quelle tristesse.
Mon petit caillou, mais où tu jouais? Sur la plage.
Moi, ils m'ont offert aussi, mais ils m'ont confisqué le jokari le même jour.
Dis-moi, sur la plage.
Ah non, je jouais devant l'immeuble. Devant l'immeuble. Dans le bac à sable, puis on mettait des petits. Comment ça s'appelle?
Les arceaux,
voilà, on mettait
la boule dedans.
Le cricket, c'est un sport absolument des millions de criquets, qui a des millions de pratiquants et dont les joueurs sont payés des fortunes. Je crois que les joueurs de cricket sont payés aussi cher que les footballeurs. C'est énorme, le cricket.
On dit cricket ou cricket?
Moi je dis cricket, mais là, en anglais on dit cricket.
Cricket.
C'est un sport qui est surtout c'est un sport qui vient des collèges anglais et que les Anglais ont exporté en Inde. Et c'est en Inde où ça se passe. Et comme les Indiens, ils sont nombreux.
Gaspard, ils sont.
Je sais pas si t'es sur le coup.
Gaspard se moque.
C'est pour Gaspard se moque.
On s'en fout.
Mais qui le regarde?
La jambe de la trompette.
Allez.
Gaspard se moque.
Moi, je lui tourne le dos. Genre, rien à foutre l'autre jour. J'étais en Himalaya. Je vais faire un truc. Mais alors, l'autre, il arrive. Et alors, je sais pas ce qu'il me dit. J'ai bien connu là, j'étais à Cannes. Alors, Elisabeth, les yeux, merde, formidable.
Continue à gagner de l'oseille au théâtre parce qu'à la radio ça va pas durer.
Alors, vous êtes allé dans quel restaurant avec Mme Bénichoux?
Chez Joséphine, rue du Cherche-Midi, qui est un des meilleurs restaurants de Paris pour moi.
Joséphine?
Mais non, évidemment, tu connais pas. Tu connais Spoon. Il connaît la cuisine fusion. Il connaît la nouvelle cuisine. Non, c'est un vrai restaurant. Tu bouffes du foie gras, du gigot, c'est un restaurant. Quoi.
Je déteste ça, le gigot.
Tu détestes ça, le gigot?
Oh là là, le gigot, c'est dégueulasse, le gigot.
Tu vois à quel point. Et ça se dit français, ça.
Ma mère en faisait toujours. Il y a une fête catholique où on doit bouffer du gigot.
C'est la fête du gigot à Pâques.
Je détestais ça.
L'agneau pascal.
Mais t'as le délicieux gigot là, le petit gigot de Pâques où il y a sur le tout petit agneau.
J'appréhendais Pâques pour le gigot. Maintenant ça y est, ça me revient.
Il
me revient encore parce qu'il y a de l'ail en plus dans le gigot.
Non,
peut-être que
ça c'est une aberration.
Ah bon?
On ne met pas d'ail dans le gigot.
C'est pas, on transperce pas un gigot pour y mettre de l'ail.
On y met quoi alors? On le transperce pour y mettre quoi?
Tu mets l'ail à côté.
Rien du tout.
On frotte simplement la...
Vous n'allez pas apprendre à ma mère à faire le gigot, monsieur Koff.
Quoi, vous êtes le fils de Caroline Diamant?
Je pense que si votre maman...
Raymond, appelez-la Raymond.
Non, madame Raymond, si ça vous encore si pas la gueule. Ouais.
Si votre maman... transpercer le gigot avec un coup...
J'ai jamais dit qu'elle transperçait le gigot, hein.
Mais elle mettait comment les
gousailles? Tu l'as laissé entendre.
Est-ce qu'elle mettait de l'ail dans son gigot alors?
Eh ben elle le déposait dessus.
Non,
ça se dépose pas, monsieur. Non, on fait des trous avec un couteau.
Avec un couteau pointu, on fait un signe de croix.
C'est ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, d'accord, mais moi je cuisine pas, donc je le fais pas.
C'est ce qu'il ne faut pas.
Où tu mets ton ail? À côté, dans le plat.
Je frotte
délicatement
la souris avec de l'ail, oui. Et je mets l'ail dans le plat,
voilà, à côté.
Et puis ensuite je fais un jus avec le pas du tout.
Mais ça c'est trop compliqué.
Ma mère a été médailleur au gigot de 1958.
Tu décantes ton plat de cuisson, c'est tout.
Tu déglaces. Exactement, c'est le mot.
Tu déglaces ton plat de cuisson.
Tu mets une goutte d'eau dedans et puis tu laisses réchauffer et puis tu écrases l'ail surtout.
Non, Jean-Pierre, non, sinon tu sais ce que tu peux faire? Tu fais un petit trou et tu peux mettre une petite gousse d'ail à l'intérieur sinon.
Non,
t'as dit que non.
Oh merde. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, c'est malin de faire ça. Et en plus de ça, ça gâte le goût du gigot.
Tu sais, Jean-Pierre, ce que j'aime bien, moi, c'est quand on fait un petit trou intérieur, qu'on met une. Oui. Après, là, il est un peu fondant.
Ouais. Non, il n'est pas fondant. Parce que le gigot, ça cuit en une demi-heure, c'est croque sous la
main. De toute façon, on s'en fout, puisqu'au départ, je vous ai dit que j'aimais pas ça.
Mais je veux dire, ne pas aimer le gigot, c'est peut-être une des choses les plus bizarres que je connaisse.
Mais non, c'est une viande qui est pas très. On vous fout ça aussi pendant les... Ah, en fait, gigot, pour moi, ça veut dire réunion de famille et mariage.
C'est ça que ça veut dire.
Ah là 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 là, les banquets familiaux avec du gigot.
Il n'est pas un seul cuisinier, un seul chef. Et là, je pense que mon ami... Koff ne me contredira pas, qu'il ne mette pas dans la sauce du gigot, qu'il ne mette pas un peu de fond de veau.
Ah.
Et souvent... ça donne un côté un petit peu sucré. Il faut en mettre très très peu.
Il faut pas en mettre. Il va nous donner des leçons de cuisine.
La dernière fois que tu as été dans une cuisine, cuisiner, juste pour info.
Cuisiner ?
Oui.
Non, je donne deux ongles.
Non, vous avez une façon de faire le gigot qui est tout à fait remarquable.
À la couverture.
Eh oui.
Alors, c'est quoi la couverture ?
Ça implique que vous vous leviez le matin un peu tôt. Vous frottez votre gigot, il est sorti du réfrigérateur. Oh
bah moi, le matin, je me lève, je frotte mon gigot. Premier truc qu'il fait.
C'est le moment où tu es plus en forme.
Toujours.
Il frotte le gigot dès le matin. Le soir, non. Il
j'ai pas dit astiquer le gigot, j'ai dit frotter le gigot.
Et là, j'entends aïe, aïe, aïe.
Non, lui, il frotte pas seulement le gigot, il frotte tout le baron.
Encore faut-il trouver une gousse.
Oui. Et la souris, ça t'intéresse toujours pas.
Toujours pas.
Vous faites toute confiance. Si vous voulez pas que je vous donne ça.
C'est oui, on oui, frotte oui, avec quoi?
Alors, vous le frottez avec des herbes, avec un petit peu d'huile, etc. Vous le mettez dans le four. Ouais. Vous le mettez dans le four juste pour le saisir pendant un quart d'heure, 10 minutes, de façon à ce qu'il soit
quelle température
bien croustillant.
Et pourquoi il faut se lever tôt?
Température maximum. Veux-tu
parce
me laisser
qu'après,
terminer,
tu vas le ressortir.
Tu le ressors, tu l'emballes dans un torchon, tu l'emballes dans une couverture et tu le mets dans un sac isotherme. Ah. Le secret, c'est ça. Voilà. Et il va rester au chaud. Et là, tout le sang va se re-répandre
ah, le
dans
sang.
Le
oui,
c'est va se re-répandre
c'est Jean-Pierre Coffe, le seigneur des agneaux. Et...
Ah merde.
Et tu le repasses pas au four.
Et il est cuit comme ça.
Ah oui.
Il va
faire des tranches transparentes.
Il est jaloux.
Et rosé. Et le lendemain matin, quand tu le manges froid avec une mayonnaise, quand à 5 heures, tu te lèves pour aller donner à manger à tes animaux.
Alors il faut se lever tôt pour le faire.
Et tôt pour le bouffer.
Tôt pour le bouffer.
Bien sûr. Il y a des plats de 6 heures du matin. C'est connu.
Les tripes, par exemple.
Les
tripes, c'est le casse-croûte.
Et la Montbéliard froide à 6 heures du matin
avec la moutarde
avec un verre de blanc.
Est-ce que c'est codé leur conversation ou pas?
Ouais, je crois que c'est une grosse pute qui habite Montbéliard.
Je vais vous dire une chose, le gigot avec la purée de pommes de terre, c'est exquis, à condition que la purée soit très bonne, très douce, très onctueuse, et aussi avec la salade
et avec un gratin dauphinois.
Et personne parle des flageolets.
Le gratin dauphinois, mais ça n'est pas
avec les salsifis.
Non, écoutez,
le salsifis fait péter, c'est terrible.
Oui, alors que l'arrêt-co-blanc, c'est bien connu, pas du tout.
Le gratin de macaroni, c'est pas ça c'est non, pas plus, non hein. plus.
Mais le pas du tout, pas du tout, monsieur.
Le flageolet.
Parce que le flageolet, si tu prends du tarbet, avec une petite peau très fine, tu n'as aucune flatulence.
Et la bougette.
Écoutez, monsieur Bénichou, je sais bien que vous êtes plutôt jeune, mais faites-moi le plaisir d'écouter ce que je vous dis.
Ah, bah,
c'est ni la
grâce,
ni la
je suis fou.
Mais parce que vous ne savez pas tout et vous voulez avoir l'air de tout savoir.
Mais non, pas du tout, au contraire.
Ça, c'est Mathieu.
L'admiration.
Ça, c'est vrai, ça.
Enfin. Non, c'est pas vrai, ça. Alors, là.
Non, mais franchement...
qu'est-ce qu'elle a, la mère Denis, là? Non, mais sérieusement.
Bon, alors, qui t'a appelé la mère Denis?
Ah, si c'est moi, ça va aller mal. Hein.
Il déteste qu'on appelle la mère Denis.
Maïté et la mère Denis, je trouve que c'est vraiment beaucoup, quand même.
Pour la même émission,
alors qu'il ressemble à Monsieur Propre.
Ah mais moi je viendrais plus ici si c'est pour me faire insulter.
Je sais pas si vous connaissez la recette où fais un trou dedans et tu mets une petite gousse d'ail.
Ça c'est une aberration mais on peut le faire aussi à la couverture.
C'est pour ça que chez lui il y a des couvertures dégueulasses. L'autre fois j'ai dormi chez lui. Je dors et je sentais une odeur.
Ça sent le bœuf.
Ça sent le teint.
Ça sent les gigots.
Viens dans la chambre d'amis. Je vais dans la chambre d'amis. Ça sentait la cuisine.
Moi je me suis réveillé le matin, je faisais ben.
C'est ah oui, je joue, il s'est réveillé le matin, il avait une gousse d'ail dans le cul.
À une question qui devrait vous amuser, qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes dans les couloirs du métro de la gare de Lyon et aussi à la gare Montparnasse, pour 10 euros seulement.
Se faire masser.
Couper les cheveux.
Se faire couper les cheveux. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. C'est exactement ça. Et ça, je trouve ça pas mal. On peut se faire rafraîchir la nuque.
Non, attendez. Donc, quand tu es à Paris, en 10 minutes, tu peux te faire rafraîchir.
C'est ce qui est écrit. On peut se faire rafraîchir la nuque avant de prendre le train. Un concept de salon de coiffure express, ça s'appelle Beauty Bubble. Il y a déjà deux adresses à Paris, donc une dans les couloirs du métro de la gare de Lyon, l'autre à la gare Montparnasse. 10 minutes, chrono, 10 euros, et hop, vous repartez bien coiffé. C'est pas mal, ça.
Moi, maintenant, parce que moi, tu comprends, il faut me faire un brushing.
Ah bah oui.
Ça prend plus de temps que ça.
Mais tu sais qu'on ne parle pas que de toi, que donc il y a des gens, peut-être que ça arrange les 10 minutes.
Ah, des garçons, la rafraîchir la nuque, oui, ça sûrement. Mais il y a des tas de dames pour qui ça n'irait pas.
La seule condition, avoir les cheveux propres, hein, parce qu'évidemment,
il n'y a pas de shampoing. Là.
Pourquoi ça vous fait rire, ça ?
Parce qu'ils sont toujours sales, attends. Pas les miens, attention. Mais encore, non, pas les miens.
Bon.
Mais les cheveux, les aisselles, tout ça, c'est...
On peut se faire rafraîchir les aisselles aussi, ouais.
C'est, ça sent mauvais. Surtout dans les couloirs de métro, alors je te raconte pas. Encore pire dans les wagons. Surtout arrive la fin de la semaine.
Dis donc, la dernière fois que t'as pris le métro, c'était quand? Ouais.
Ah, il y a très longtemps.
Ah, ben voilà.
Il doit y avoir 15 ans.
C'est des chevaux qui le traînaient, non?
Canaille.
En tout cas, voilà, le Beauty Bubble de Montparnasse, ça me donne une idée, c'est qu'ils devraient faire ça dans le train.
Mais c'est ce
trouve.
Que j'allais dire.
Mais
oui,
parce que là, vous voyez, ils auraient le temps, par exemple. Il y aurait un casque, vous voyez, au-dessus du voilà, vous sécheriez vos cheveux, la fille derrière qui vous masserait dans le train, enfin, ce serait formidable.
Mais non, parce qu'on se retrouverait avec des petits. Vous savez, quand on sort chez le coiffeur, faut prendre une douche parce qu'on. Ouais, voilà, ça pique.
Et bah, il y aurait une douche à la place des toilettes.
Oh, arrête. Ouais, mais et un lit à la place de quoi? Du strapontin dans le hall, entre les deux wagons. C'est n'importe quoi, votre truc.
Non,
moi, je trouve que ce qu'il faudrait, d'ailleurs, il y en a déjà, ce qui est très, très important, c'est les talons minutes.
C'est quoi, ça?
Comment? Je ne savais pas ce que c'est que les talons minutes.
Ah, les cordonniers.
Ah, vous pouvez louer des talons.
Oui.
Non, elle veut dire les talons minutes.
Ah oui. Hein,
c'est ça. Les talons minutes.
Ah, une petite urgence. Une
petite urgence dans le train.
Recours si Freddy qui arrive en 60 secondes. Voilà. C'est les talons minutes.
Ah non.
Alors, c'est quoi vos talons minutes, Claude?
Voilà. Quand tu as des talons qui sont un peu abîmés.
Alors, ouais.
Eh bien, tu t'arrêtes. Et en une minute, ils te le remplacent.
C'est pas vrai.
C'est un cordonnier, quoi.
Et tu en as beaucoup, justement.
Et vous trouvez que ce serait plus utile qu'il y ait des cordonniers dans le TGV que des coiffeurs?
Mais ça se fait de moins en moins maintenant.
Ça s'appelle talon minute parce qu'une minute après, ça s'est décollé, tu vois. Ouais. Donc, elle est obligée d'y retourner.
Non, mais enfin, c'est la seule à réclamer ça, des talons minute dans le TGV.
Vous voulez pas qu'on leur demande déjà d'arriver à l'heure au train? Non, mais c'est pas con.
Attends juste qu'ils me le disent parce que ça va faire rire tout le monde, mais moi j'ai pas entendu.
Non, on va pas.
Oui, mais je peux pas faire l'émission en double. Non, mais Claude,
non.
Si je le redis, je vais avoir le jingle.
Mais non, tu me le dis dans l'oreille.
Très bien de leur demander déjà d'arriver à l'heure au train.
Ah. Oh là là, trop drôle.
Oh la garce. Une question difficile. Pourquoi dans la presse voit-on la photo d'un autobus à accordéon Renault Agora?
Ben, je sais pas.
C'est la fête des grands-mères.
On peut répondre.
Pourquoi? Donc, il y a Yvette Horner est dans le coup, il y a un truc comme ça. Un truc de pub.
Il le faut au moins ça.
Parce que ça représente une distance.
Ouais. Alors, allez-y, si vous
savez. C'est le record du monde de Teddy Tango, j'arrive pas à le dire. Qui est abattu à Bercy ce week-end.
Et alors, c'est quoi la mesure?
C'est 17 mètres.
18 mètres 73.
18 mètres, je sais pas. 17 mètres 92, je crois.
17 mètres 92. Et pour nous montrer combien ça fait 17 mètres 92, dans le Parisien, ils nous ont mis la photo d'un autobus à accordéon pour qu'on voit un peu la longueur. Comment ça y roule?
On va monter dedans.
Mais non, mais c'est vraiment rien.
Je ne comprends rien.
Le nouveau record du monde du triple saut en salle du français Teddy Tamgo, ça correspond à la longueur d'un autobus accordéon. Il n'a pas besoin de bouger. Ah. Vous voyez?
Comment un autobus accordéon peut tourner dans les rues et tout ça?
Grâce à l'accordéon.
Grâce à l'accordéon, c'est le principe.
Ah.
C'est pas la question.
Non, ça n'a rien à voir.
Totalement
sous. À quoi ça sert de sauter la longueur d'un bus?
Par exemple.
Par la porte de derrière plutôt que essayer de se faire écraser par le pare-choc de l'avant. C'est ridicule, votre histoire.
Mais on le voit, justement, effectivement, ils le font partir à la queue
du bus. Ouais.
Voilà, alors je sais pas comment c'est le triple saut, parce que moi j'ai fait ça.
Il y a
à
trois types de sauts différents.
J'en ai jamais refait depuis. Hein.
C'est horrible.
Il paraît que t'avais sauté la distance du smart.
On tombe sur un pied, on se retire la cheville, on arrive dans le sable, la tête en avant. C'est horrible.
En plus, il n'y a aucun mérite parce que tu sautes trois fois.
Tu sautes trois fois.
Pas l'intérêt de ce truc, en fait.
Bah, il a l'air sympathique en même temps, ce technicien.
Bah oui, on doit être sympathique en faisant cet exercice qui est naze, quoi.
Ils font un,
c'est un peu
deux.
Comme le badminton.
Ah non, c'est bien.
Ah, le badminton, c'est le truc le plus ridicule.
Ah,
quoi.
Ah non, c'est bien.
Ah non, arrête. Le mec, il a la raquette flottante et tout.
Avec non, le volant avec le volant.
Ouais.
Le volant.
Ouais. C'est extraordinaire, le badminton. C'est un des sports les plus physiques au monde.
Bien sûr,
c'est
super incroyable.
Sur l'île de Ré, on fait que jouer à ça.
Les volants vont 4 fois plus vite que les balles de tennis.
Sur l'île de Ré, avec le vent, on les voit jamais, les volants. Ils s'envolent.
Oh non, avec des plumes dans le cul du volant et tout.
Oui.
C'est un truc de l'Alcazar, là, des plumes de quoi? Mais tu m'as dit des plumes d'oie, des vraies plumes d'oie.
Des vraies plumes d'oie.
Oui.
Ce sont des vraies plumes d'oie. Mais ça n'a aucun rapport avec notre record du
où
monde.
Il y a des vraies plumes d'oie.
Pardon?
Oui, il y a des vraies plumes d'oie.
Dans les volants.
Autour du volant, bah, du badminton.
Le triple saut, il se met des plumes d'oie.
Ouais, il va plus loin comme ça. Il est plus loin. La flottabilité de la plume.
Comme une balle de badminton. C'est ça, Olivier.
Badminton.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Badminton. Bah, ça s'est marché. Badminton.
Qu'est-ce qu'il y a,
il a
c'est pas un badminton peut-être?
Tu vois, il est là le point G.
Il vient d'un pays où on vient de découvrir le jokari. Tu peux pas
le faire. Non, mais à Marseille, le point G, il est là. Il est dans badminton.
Il est là le point G.
Badminton.
Elle se fout de ma gueule.
C'est parce qu'il parle comme ça à Marseille.
Ouais.
Voilà. Pierre était très doué au badminton, jeune. Hein
ouais, je jouais bien. Tous ces sports de balle, je jouais pas mal.
Jeu de paume.
C'est pas une balle. Hein.
Je jouais bien au ping-pong, au badminton, au tennis.
Au pénis.
Je jouais soir avec Mitterrand et je jouais beaucoup.
Tu tombes mal. J'ai joué avec Mitterrand quand j'avais 6 ans.
Ouais. Oh.
Au tennis.
Non, au ping-pong.
Au ping-pong.
Il m'avait battu 21-19.
Oh non,
et mon père avait dit un homme qui fait ça est capable de tout. Et je jure que sur ce que j'ai de plus cher au monde, que l'anecdote est absolument authentique. Ouais,
mais il vous a battu dès le premier tour ou
Mais non, on était allé jouer parce qu'il était un ami de mon oncle. Et il a dit oh, tu joues bien au ping-pong. J'ai dit oui, je devais avoir 8 ans. Et alors j'ai dit ben allons-y, on avait trouvé un ping-pong ouvert, un café avec un ping-pong au quartier latin qui s'appelait le Ludo, qui était rue de la Sorbonne. On y était allé, il était 10h30 du soir, c'était après dîner, et je menais, il est devenu flemme, il avait les doigts accrochés au manche de sa raquette, il est arrivé à me battre 21-19 devant ma famille et devant ma famille et pleurer, non pas que j'ai perdu, mais de voir un adulte avoir autant de hargne.
L'adulte, voilà. Il était plus jeune que toi.
Ça, c'est pas bien, ça.
C'est méchant, ça.
Ça, c'est méchant.
Bah oui.
Pas du tout.
Mais en tout cas, j'aurais voulu voir. Et ça a été télévisé? C'était en direct?
C'était en direct, oui.
Non, c'était sur Radio Mes Couilles.
Non, la télé n'existait pas.
C'était télévisé.
Mais quel âge il avait, c'est vrai, quel âge il avait, lui, là?
Il était en stage, il avait 22 ans de plus que moi.
C'est Claude Dargé qui commentait.
Mais Claude Darget n'existait pas encore.
Ah, la télé n'existait pas encore.
Oui, mais c'est bon, je
vois. Mais Pierre Bénichou, sa première année d'existence.
Mais non, c'était ça devait être en 47 ou un truc comme ça. Oh, puis je vous emmerde.
Bah, c'est normal, en 47, il avait plus
il avait
de résistance
31 ans,
que toi.
Il avait 31 ans.
Et t'as déjà fait un baby-foot avec le général de Gaulle aussi ou pas?
Non, il avait fait du joker avec Pompidou, je crois.
Arrêtez-le parce que là je arrêtez.
Là ça devient
un acharnement
contre un vieillard, c'est pas bien.
Non.
C'est pas bien.
Non, et c'est pas
vieillard. Il a fait de l'escrime. C'est pas
du tout.
Il a fait des escrimes avec Napoléon.
C'est pas gentil.
Il a fait du ski nautique avec Jésus.
Mais là ça va finir comme le procès du maréchal Pétain.
Il a fait du ski nautique avec Jésus. Justement, tu crois pas si bien dire. J'ai fait un concours de francs de vrais français avec le maréchal Pétain. J'ai perdu.
Tiens, un sondage là qu'on vient de m'apporter, un sondage qui nous détaille un peu la sexualité des Français. Je dois le dire.
23% des Français veulent coucher avec Marine Le Pen.
Elle est pas mal.
Elle est très bien. Ah. C'est ça le drame.
Ah, vous aimeriez entrer dans la marine?
Mais non, mais ça.
Oh. Ah, non.
La tête de cœur sous
on parle pas comme ça d'une présidente de la République.
Non, mais moi, d'ailleurs, dans cette marine-là, on me laissera pas rentrer. De toute façon, je suis tranquille.
Oh, pour elle, c'est un détail. Hein.
Ouais, c'est un détail. Mais
c'était sur les rapports sexuels, mon sondage. C'était pas sur.
Alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux
sur
savoir?
La politique.
C'est quoi en...
ah, ben, alors, d'abord, sachez qu'on a interrogé les Français. Et vous l'avez vu, ce sondage ou pas, Gazan?
Non, je l'ai pas vu.
Ah, très alors, bien. Je suis content parce que il sait tout, il m'énerve. Hein.
Ouais.
Alors, d'abord, on a demandé. Aux Français quels étaient leurs fantasmes. Il y a quand même eu 17 800 Français interrogés, c'est un gros échantillon. Hein. Ouais. quel est l'endroit qui vous fait le plus fantasmer pour faire l'amour?
Je sais ce qu'ils ont répondu.
Allez-y, dites le cul.
Connard, l'ascenseur.
Non. Alors, non, pas du tout. L'ascenseur arrive loin derrière. En tête, c'est une plage déserte. 22%.
C'est pas un fantasme.
C'est un truc qui me fait pas fantasmer.
C'est vachement agréable d'avoir la bite dans le sable.
Ah ouais, ça arrive.
C'est très désagréable.
Le mec avec. Il y a un endroit où il faut pas niquer, c'est bien là, tu rigoles.
Ça gratte de partout.
Mais c'est pas fantasmant du tout. Le fantasme, c'est dans un endroit interdit. C'est dans un, je sais pas, moi, dans un couloir de train, dans un machin comme ça.
En fait, c'est un prétexte pour partir en vacances.
Vous dites ça, moi, c'est pas moi qui ai répondu, c'est les
Français. Si, c'est toi qui as répondu.
Ils sont cons, tes Français.
Mais non, mais c'est même plus du fantasme. En fait, ils veulent partir en vacances.
Oui, mais voilà.
Alors après. Sur une plage déserte.
Alors, en tout cas, voilà, c'est comme ça, 22%. Sur une plage déserte.
Il faut préciser que pour les sadomaso, c'est sur une plage de galets.
Non, moi je veux faire les galets. Hein.
Ouais, les galets.
Ça ne gratte pas le derrière pendant des heures après. Ah bah oui.
Nous, au Havre, on n'avait pas le choix.
Bah oui.
Parce que t'as baisé peut-être. Ouais.
Pourquoi il n'aurait pas baisé au Havre?
Ah oui, ça c'est drôle.
C'est
un détail qui n'est pas négligeable.
Ah. Oui, Christine. Comme disait... bah justement, oui, sur les galets. Ah, entre deux cabanes. Ouais.
Voilà.
Ouais. Voilà.
Et comme disait un copain Oran, ça dépend ce que t'appelles baiser.
T'es tout dur, non, c'est un galet.
Bon, 22% donc sur une plage déserte, 18% sous la douche.
Oh, ah bon.
Mais c'est pas un fantasme.
C'est nul.
Ah bah si, c'est une réalité.
C'est un truc normal.
Où aimeriez-vous avoir des rapports sexuels? 22% oui. Répondu sur une plage déserte, 18% sous la douche, 17% dans la voiture. 17%.
Ouais. Ouais.
Dans une piscine, 14%.
Ouais.
Dans un ascenseur, 9%. Sur la table de la cuisine, 7%. Au bureau, 6%.
Et la machine à laver, voilà, des femmes normales.
Au cinéma, 2%.
C'est tout.
Et la machine à laver,
le
dessorage, tout ça, non, personne.
Dans un parc, 4%. Dans le cul, 1%.
Quelle grossièreté.
Je vous ai donné effectivement les réponses à la question suivante. Où aimeriez-vous avoir des rapports sexuels? Mais j'ai l'autre résultat. C'est où avez-vous eu des rapports sexuels la dernière fois? Et là, je vais vous donner la majorité des réponses, c'est 64% dans un lit. Bon, ça paraît logique. Voilà.
Mais il faut donner l'adresse ou pas?
Ouais, parce que si c'est dans un lit chez Conforama un samedi après-midi, là, c'est pas pareil.
Il est drôle, Gazan.
Ça, c'est un fantasme, vrai. Ouais.
Regardez, ça énerve Benichou, mais il est drôle.
Non, il est marrant. Pas pour ce genre de mission, mais il est drôle.
64% dans un lit. Le deuxième score, on chute tout de suite, c'est 11%. Où 11% des Français ont-ils fait l'amour la dernière fois? Donc 64% dans un lit, 11%.
À l'hôpital, la dernière fois.
Dans la bagnole.
Sur le canapé, devant, on n'est pas couché.
Non, devant la télé.
Sur le canapé du salon, exactement. Le deuxième endroit où manifestement on fait plus l'amour, c'est sur. Il y a monsieur qui fait.
Mais c'est là où il est.
Mais oui,
c'est là où il est tout le temps.
Quoi? C'est top.
Mais Titi, tu passes ta vie sur le canapé.
Non, mais c'est pour les gens de petite taille, ça.
Pourquoi?
Je suis pas bien sur des canapés, mais je sais pas où mettre mes cannes.
Ah ouais, non, arrête, là, on imagine, là, c'est sûr.
Arrête.
Vous pouvez avoir les cannes allongées sur la table basse,
non,
Pierre.
Ta gueule, toi, je te vois venir.
Mais pourquoi tu veux?
Je te vois venir, et puis il y aura une bonne bouteille de champagne à tout ça. Là. Non, monsieur, je suis né propre, je mourrai propre.
Non, lui, il n'est pas clic-clac, il est plutôt clac tout court.
Alors, dans un lit, 64%, sur le canapé du salon, 11%. Et la troisième proposition, enfin, la troisième réponse, c'est 8%. Où, à votre avis?
En voiture.
Je vais vous donner, toutes les autres. Hein. 64% dans un lit. 11% ont fait l'amour la dernière fois sur le canapé du salon. 5% à l'hôtel. 3% dans la voiture. 3% sur la table de la cuisine. 2% sous la douche. 2% au bureau. 1% chez des amis. Et 1% autre.
Chez des amis qui filmaient.
Oui. Oui. C'est
le pourcentage d'échangistes, en fait.
Chez des amis.
Dis donc, chérie, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez nos amis.
8%, c'est beaucoup. 8%, c'est le troisième score.
Par terre.
Est-ce que c'est un endroit qu'on a tous chez soi?
Alors, justement, pas chez soi. Oui et non, pas chez
soi.
C'est pas un lieu, proprement dit.
Dans l'escalier.
C'est dans un hamac.
C'est abstrait.
En rêve.
Dans la nature.
Non, pas en rêve.
En cauchemar.
Non, c'est concret. Mais comment je pourrais vous dire ça?
Ouais. C'est abstrait, tu as dit.
Oui, c'est... Alors, si c'est abstrait, c'est pas concret.
Sur Internet. Ouais.
Non, pas sur Internet. Mais ce que je
devant une webcam.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est concret. Mais c'est
avec sa mère.
Ah mais on se rapproche.
Dans le lit des enfants.
Non mais.
Ah, c'est avec les enfants.
Mais non.
Dans une morgue.
Dans la cave.
Mais non.
À la maternité.
8% répondent la dernière fois que
dans
j'ai
la tête. Dans la tête. Mais non.
La dernière fois que j'ai eu des rapports sexuels, c'est chez mes parents.
Chez mes parents.
Voilà. Bonne réponse. De Jean Ben Guigui.
Parce qu'ils vont passer le week-end en famille, Jean.
Chez les parents ou chez les beaux-parents.
Ah, chez les parents, ça arrive souvent.
Et tu crois que Claude Sarraute va baiser chez ses parents le week-end? Ça tient pas ton sondage.
Et ben, elle fait pas partie des 8%. Quoi que c'est idiot, parce que dans un lit, 64%, ça peut être chez les parents aussi.
Oui, chez les parents, tu touches pas le lit.
Ouais.
Chez les parents, c'est
deux. Pas dans, d'amis,
pas dans le lit des parents, enfin voyons.
Non, arrête.
C'est debout.
C'est comment on appelle ceux qui baissent les lits d'un parent, on appelle ça les saumons. Ah bon. Ils remontent là où ils ont été faits.
Alors, il faut quand même vous dire que l'ASOM, A-S-O-M, vient de décerner son prix à la brasserie Flotte. Mais quel prix décerne l'ASOM ?
Ah, je connais la brasserie Flotte.
Ah oui, c'est dans le deuxième arrondissement de Paris.
Ouais, c'est dans une rue qui a... Ah oui, je connais très bien.
C'est un mauvais prix ou un bon prix ?
Non, ça doit être un bon prix.
Ah bah, c'est un prix qui prime le meilleur endroit.
Le museau ?
Non, où on trouverait le meilleur museau, c'est ça ?
Mais c'est pas
la non, c'est pas le museau.
La tête de veau, la tête de veau.
Pas la tête de veau.
La langue de bœuf. L'association, on va trouver les
chercher l'ASOM, voilà. Alors, les
l'association
voilà.
Des secours.
De sauvegarde.
De sauvegarde.
Voilà, mais c'est en fait le
O. Ah, de la saucisse de Morteau.
L'OM.
Non, l'OM.
L'OM, c'est pas saucisse de Morteau.
De l'Olympique de Marseille.
Non.
L'association de sauvegarde.
Des oignons.
De l'Assommoile. Mais arrête d'être poissonnière.
Mais j'ai rien.
Tu fais poissonnière.
Des poissonnières. Mais je suis tellement contente quand je trouve la bonne réponse.
Mais c'est pas ça.
Le O, c'est oignon ?
Non, non plus.
Orteil ?
Ouais. Non plus. L'association de sauvegarde de l'OM. Qu'est-ce que l'OM ?
De l'otarie moulée, je sais pas.
Et le meilleur, on le trouve à la brasserie Flotte.
Attends, est-ce que c'est un animal qui vit dans l'eau ?
Non.
Ça se mange. Est-ce que c'est dur ?
Tu penses à quoi ?
Est-ce que c'est à la viande ?
Est-ce que c'est justement, dur ? Non.
Est-ce que c'est un légume ?
Omelette,
c'est un. Alors, allez-y.
L'omelette, après, quelle est l'omelette ?
Ah, l'omelette morvégienne.
Morveuse.
Non, c'est pas omelette.
Ah, merde.
Alors, c'est avec des œufs.
L'œuf mollet. Non, je l'ai dit avant. L'œuf mollet.
Non.
Ah, alors, c'est
l'œuf mollet.
Mi-mollet.
L'œuf meurette.
Non.
Mimosa.
Non, mimosa. Oh, c'est génial, mimosa.
Non, mais non, le relou. Oh là là.
Les autres, elles sont mollets.
L'œuf mouillette.
Elle apporte un peu de poésie, l'autre, la mouillette, vous voyez. Là, on a une jeune femme, elle vous dit mimosa, vous voyez, d'un seul coup, c'est
poétique.
C'est plus poétique.
Ouais, mais c'est pas la bonne réponse.
Quand elle va te les refiler, les mimosas, tu vas voir.
L'œuf, bon, enfin, écoutez, avec un...
Mayonnaise.
L'œuf mayo, évidemment. Moi, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Poursuivi par Claude, mais c'est Olivier qui l'a dit en premier.
C'est une honte.
L'œuf mayo.
Je regrette de l'avoir dit, j'ai honte.
Pourquoi ? Parce que... Il y a une association de sauvegarde de l'œuf mayo.
J'ai honte d'être là, en fait.
L'ASOM. Alors, ils testent tous les œufs mayo de la capitale. L'assiette doit avoir un aspect appétissant, contenir un œuf assez gros, une mayonnaise bien assaisonnée. L'œuf ne doit pas dépasser 8-9 minutes de cuisson. Et alors, ça, j'ignorais, parce que moi, je n'avais pas l'habitude de voir ça pour un œuf mayo. On doit le napper de macédoine aussi, l'œuf mayo. Vous avez de la macédoine dans votre œuf mayo, vous ?
Non, je l'aime nature.
Non, c'est ça, il n'y a que de la mayonnaise. Un œuf et de la mayonnaise. Bon, enfin voilà. L'idéal, c'est qu'il soit composé de 3 demi-œufs avec une mayonnaise très moutardée et qui nappe bien.
Je suis tout à fait d'accord.
Ah oui.
Un œuf dur, c'est nul. C'est pas assez.
Voilà.
Alors, 3 moitiés, c'est bien.
Voilà.
Ça fait un et demi.
On perd
quoi.
Pas notre temps. Hein, on voit que ça sert les femmes aujourd'hui.
Vos œufs préférés, c'est les œufs mimosa, alors, Anne-Solène. Vous les cuisinez, vous-même?
Regarde-le.
Tu sais, mais regarde-le. Non, mais alors, on dirait la communion, tu n'as coulé de mimosa.
Déjà, il a l'air con d'habitude, mais alors là, c'est
non. Non, c'est pas vrai, c'était très beau. Il avait un regard d'une pureté, d'un enfant délicieux.
Pas du tout, un enfant.
Vous faites des miracles, hein.
Comment vous les faites, les œufs mimosa, Anne-Solène?
On me les prépare, en fait.
Quelle voix!
Ah oui, hein.
On vous les prépare qui? Vous les prépare?
Ma mère.
Ah!
Il va falloir séduire maman.
Ah bah, j'allais voir madame Hatt.
C'est une viette, attention.
C'est quoi?
C'est une vietnamienne.
Une vietnamienne, mais pas de problème.
Voilà. Bien sûr, parce que les vietnamiens, c'est les grands spécialistes de l'œuf dur. Bien sûr.
Non, tu nous la mayonnaise.
Tu nous prends pour des cons.
Ah, bah, la mayonnaise vietnamienne, c'est super.
On parlerait encore des nems. Non. J'allais voir madame Hatt pour faire des œufs mayonnaise.
Il fait bien le con, mais tu fais bien la jalouse aussi.
Le 101e est annoncé pour le 31 mars prochain. De quoi s'agit-il?
C'est sportif?
Non.
C'est politique?
Et c'est une question que j'ai déjà posée il y a
peu. Ah, le dalmatien?
Bah oui. Non. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah non, mais il m'étonne, des fois, il a des...
Des références?
Non, il
des
a...
Des fulgurances.
Non, c'est même pas ça, des fois, il...
Il est drôle.
Je sais pas, il a les deux fils qui se touchent, là-haut.
Enfin, c'est quand même pas ce qu'il a dit de plus génial. Quand on dit 101, il y a quand même 80... Il y a quand même 94% des gens qui pensent dalmatien, Stevie.
Mais on en a parlé la semaine dernière dans l'émission. Donc, qui s'en rappelle, ça m'étonne.
De quoi?
D'autant plus que j'étais pas là.
Ben oui, t'étais pas là, c'est pour ça.
Stevie, il n'y a pas besoin d'en avoir parlé dans l'émission. Quand vous dites 101, généralement derrière, il vient dalmatien.
Ah, vous êtes bizarre, vous.
Pourquoi?
Moi, 101, je sais pas, je pense pas forcément dalmatien si je suis dans les dominos, par exemple, ou ailleurs.
Qu'est-ce que tu entends quand je suis dans les dominos?
C'est très bizarre. Je suis occupé à quelque chose, tu vois.
Ouais.
Ça peut être 101 allumettes. Ou
voilà.
Il n'y a pas de livre qui s'appelle les 101 allumettes.
Il n'y a quand même pas grand-chose dont on sait qu'ils sont 101, à part les dalmatiens.
Il n'y a que ça, d'ailleurs.
Donc il n'a rien fait d'exceptionnel, ce couillon là-bas.
Comment elle parle d'une espèce de larve excitée là, qui est de l'autre côté.
Quand il a dit 101 dalmatiens, certes, ça a fait rire, mais enfin, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans, Stevie.
Ah non, mais moi, je pensais vraiment qu'il allait mieux parce que je m'inquiétais. Je me suis dit, tiens, ça y est, il se rappelle de l'émission de la semaine dernière. C'est un progrès.
C'est pas dalmatien, en tout cas. Le 31 mars prochain, on connaîtra le... Et il y en aura 100, alors qu'il y en avait 100 pour l'instant. Il y en aura 101.
Il y a un rapport avec les cantonales ou pas?
Aucun rapport.
Avec les députés?
Quoique!
Ah! Mmh.
Ah! Mais ça va pas vous aider, hein.
Okay.
Mais,
c'est un club?
Quand même, non, c'est pas un club. Mais quand même, si vous pensez cantonal, forcément vous pensez.
À la Suisse. Eric cantonal.
T'as entendu? Cantonal, Eric cantonal, il y a deux filles qui se sont touchées.
Mais comment tu peux penser à ça?
Ah bah non. Et on n'a pas parlé la semaine dernière, hein, Steve.
Il va vite, hein. Moi j'avais pensé à.
Moi j'avais dit les 101 cantonal, tu vois.
Ouais.
Vous croyez pas si bien dire?
Des cantons, il y aura 101. Il y a un canton.
Il y a un canton en plus ?
Non,
un canton en Chine.
Mais vous voyez, on se rapproche.
Des départements.
C'est-à-dire ?
Des circonscriptions.
Alors,
un nouveau département ?
Un nouveau département.
Il y aura donc le 31. Et lequel, à votre avis ?
Mayotte.
Mayotte. Bonne réponse de Stevie et François Renucci. Effectivement, le 31 mars prochain, la collectivité territoriale d'outre-mer Mayotte va devenir le 101e département français.
101e.
101e.
J'ai dit quoi ?
101e.
101, oui. Enfin, c'est parce que je suis un peu allé en Belgique aussi.
Mais bah, on n'était pas complètement revenu.
101e, pardon, département français, vous avez raison
c'est
de le reprendre.
C'est pas grave.
Détour par une île aux particularités affirmées.
C'est très beau, Mayotte.
C'est vrai, vous y êtes allé?
J'y suis allé, ouais, c'est très beau.
Vous avez vu les Mahorais et les Mahoraises?
Absolument, par contre, il y a eu de gros problèmes de Wi-Fi. J'étais un peu déçu à ce niveau-là.
Ah bah, tu m'étonnes.
Ça a niqué mes vacances.
Non, mais c'est vrai si c'est un département, parce que c'est en, quand même entre Madagascar et la Somalie, si tu veux, c'est quand même perdu.
Vous avez vu un peu
le trou du cul du monde. Hein.
Ah oui, ah bah ça, tous ah, les ça trous du cul, il connaît. Même ceux du monde.
C'est un GPS.
Il y a deux doigts de voyager avec Olivier.
Vous avez voyagé par là, j'imagine, Olivier. Évidemment. Vous êtes allé déjà. C'est beau.
Ça mérite même pas qu'on en parle.
Ah, ça mérite pas Mayotte.
C'est le Pacifique qui est bien, c'est la Polynésie qui est bien. Moi, je suis allé partout. Je dis, c'est pas la peine d'aller à Mayotte, à Madagascar.
L'océan Indien, vous n'aimez pas?
Non, il n'y a rien à prendre.
Ah bon? Même la Réunion?
Si, c'est sympa culturellement, la Réunion. Et moi, la culture m'intéresse pas. Donc.
Est-ce que tu as des îles vierges là-bas où tu vas avec ton bateau et puis il n'y a rien sur l'île?
Quand je reparle, il n'en peut plus, oui.
Je voudrais vous intéresser à un article du Parisien publié il y a quelques jours, un article signé Claudine Proust. Je cite son nom parce que franchement, elle a du mérite, Claudine Proust. Madeleine une page aussi. Entière dont le titre était « Où sont passés nos quoi ?»
Nos chaussettes.
Excellente réponse de
non,
Stevie.
Non, c'est pas vrai. Oui.
Si ah oui, je l'ai lu, je l'ai lu.
Excellente réponse de Stevie. Où sont passées nos chaussettes?
Avec le grand mystère de la chaussette qui disparaît dans la machine à laver.
Exactement. Ça, voilà.
Elle les mange.
C'est exactement ça le problème. Une page entière consacrée à ce mystère. Ne retrouver qu'une seule chaussette de la paire après le passage de la machine à laver. C'est notre lot commun, écrivait Claudine Proust. Face à cette avalanche de sockets orphelines, Internet regorge de conseils et même d'explications. En fait, j'ai lu toute la page. On nous explique pas pourquoi, au fond.
Ils savent vraiment pas. Hein.
J'ai une explication.
Ah, alors allez-y.
Alors, en fait, pendant la vidange, là, quand ça s'essort, en fait, la chaussette passe dans l'évacuation de la mauvaise eau, parce que ce sont des petites chaussettes. Et parfois, parce qu'à chaque fois, ma machine tombe en panne à cause de ces maudites chaussettes, ça bouche. Donc, il y a une petite trappe en bas de la machine qu'on ouvre, on inonde la cuisine, mais on retrouve ladite chaussette.
Non, mais t'es complètement
folle. Si, c'est vrai, je l'ai retrouvée 50 fois, moi, ma chaussette.
Mais elle est complètement folle, cette meuf. Hein. Mais dans le tambour, t'as des petits trous. Comment veux-tu que ta chaussette
passe
par des
petits trous ?
On a bien une idée.
Avant que le trou de ta machine soit large, mais.
C'est vrai que j'ai une très bonne machine. Oui.
On trouve des trucs
c'est
des fois.
C'est une fille brante.
Votre explication, Steve.
Ah bah, tout vient des Chinois. Ils nous envoient des gens nous piquer nos chaussettes chez nous.
Pour les copier.
Ils font des
paires. Je te jure, moi, des fois, je laisse la fenêtre ouverte, j'ose plus. Parce que je ne l'explique pas.
Sinon, j'ai fait un autre essai. Pour réussir à ne pas perdre une chaussette. En fait, je les mets l'une dans l'autre. Mais en fait, elles sont sales quand elles sont. J'ai essayé. Je me suis dit, si ça marche, j'ai tout gagné. Et la chaussette est sale.
Il y a des tas de témoignages intéressants. Il y a quelqu'un qui dit, franchement, quand tu as deux paires de chaussettes de sport, l'une avec une bande bleue, l'autre avec une bande rouge, pourquoi tu te retrouves toujours avec une de chaque? Pourquoi c'est jamais les deux de la même paire qui disparaissent? Ça, c'est des questions.
Non, c'est vrai.
C'est bizarre.
C'est normal.
Important.
Bizarre.
Ah, pourquoi c'est normal? Le professeur Kersouzan vous parle.
C'est normal. Vous savez ce que c'est que la vie d'une paire de chaussettes?
C'est dramatique.
Réveiller le matin de bonne heure, mis sur un truc qui sort pas très bon, piétiner toute la journée, larguer le soir à côté des chaussures, avec de la sueur dans les côtes et tout, non? Et c'est normal qu'à un moment donné, lorsqu'elle se rend compte, parce qu'il y a toujours les chaussettes, il y a un mâle et une femelle toujours.
Ouais.
Et c'est comme ça, dans la machine, tout d'un coup, il y a des.
Ah, moi, j'enfile les deux. Hein,
voilà. Mais ça ne nous étonne pas de toi, ça.
C'est dit, les chaussettes font chambre à part après. Ah ouais. Vouloir voir, tu mets les deux l'une sur l'autre.
C'est normal qu'elles partent.
Il y a quelqu'un qui dit aussi, les chaussettes, c'est le plus grand échec organisationnel de ma vie. Il y a quand même des gens qui témoignent sur Internet pour des trucs, quand même des trucs à la con.
Sinon, il y a le sac à sous-vêtements, mais ça fait chier tout le monde.
C'est quoi ça, le sac à sous-vêtements?
Une espèce de petit filet qu'on achète un petit peu partout. On met les culottes d'un côté, les chaussettes de l'autre. Et puis là, il n'y a plus d'évasion possible.
Si après, t'as la chaussette qui sent la culotte, c'est pas la peine. Alors.
Et vice-versa, la culotte qui sent la chaussette.
Mais personne n'utilise ce truc.
Ah oui,
ça embête tout le monde. Je sais pas s'il y a un petit geste en plus. Qui...
Je savais même pas que ça existait, moi, alors.
Ouais. Vous avez trouvé ça dur, mais au moins, Guillaume Depardieu était pas embêté. Quoi. Oh non.
La rétro 2011 dont Vache Génie, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Voici une séquence du 14 mars dernier. Et Laurent Ruquier vous emmène au poste.
je vous emmène dans un commissariat parisien.
Oh, on va se régaler. Bien boire.
Oui. Où était retenu un médecin militaire, un psychanalyste, un cadre commercial et un gestionnaire de patrimoine. Pour quelle raison ?
Ils se connaissaient déjà tous ensemble ?
Oui.
Ils faisaient
oui.
un groupe ?
Oui.
Ils étaient en bande.
Ils ont fait quelque chose de...
Oui, 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 oui.
Excès de vitesse ?
Non.
Répréhensible ?
Alcool, alcool.
Très répréhensible.
Pas répréhensible quand une plainte est déposée, oui. Voilà.
Tapage, du tapage nocturne.
S'il y a un médecin militaire et un psychanalyste, c'est qu'il doit s'agir d'un comportement qui est illégal, enfin, qui est
illégal.
Relatif à la loi.
Non, c'est pas illégal.
Ils étaient ensemble.
Comment ça, ils étaient
oui,
ensemble ?
Ils étaient ensemble.
Ils ont commis une action délictueuse ensemble, c'est ça que tu veux dire ?
Oui,
ils étaient à poil.
Quand ils étaient ensemble ?
Dans la rue.
Ah, dans la rue, non.
Ils faisaient du bruit.
Pardon ?
Chez eux.
Je sais pas où c'était, mais en tout cas...
Voilà, donc ils ont fait une orgie, un truc comme ça.
Et alors
c'est les sadomaso. C'est les bruits, voilà. J'ai lu ça. Ils ont maltraité vraiment trop quelqu'un qui a porté plainte après.
Excellente réponse de Jean Benguigui. La soirée sadomaso a mal tourné.
A mal tourné pour le sadique ou le masochiste ? Pour le masochiste, j'imagine.
Ah bah pour le masochiste.
Bien sûr. Et alors,
les faits remontent au mois de février. Un homme de 49 ans s'est présenté dans un commissariat parisien. Son corps était
tuméfié,
bourré d'hématomes, de brûlures, de plaies infligées
mais c'est normal.
Au cutter.
C'est ce qu'ils font. C'est le principe des soirées sadomaso.
Je leur ai dit de me faire mal, mais pas trop.
Pas trop. Tu sais que le plaisir s'arrête où il y a trop de douleur.
Mais oui, mais enfin, quand même.
Il y a une dame qui est connaisseuse dans le public, là, elle est contente.
Et alors, il a porté plainte.
Et voilà. Et donc, le médecin militaire, le psychanalyste, le cadre commercial et le gestionnaire de patrimoine se sont retrouvés au commissariat. Voilà.
C'est génial parce que ça va bien ensemble.
Et ils ont pu mettre la main, les flics, sur des clichés qui témoignent de la violence des séances qui ont pu avoir lieu. Avec... Bon,
est-ce qu'ils donnent l'adresse ou pas? Ils donnent l'adresse.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même un toubib et un psychiatre là-dedans. Quand même.
Avec le consentement de la victime, ils disent, évidemment.
Mais
la victime, elle dit non.
Qu'est-ce
qu'elle foutait là?
Il peut trouver des victimes plus courageuses que celle-là.
Tu peux me dire ce que tu fous dans une soirée sadomaso?
Mais son plaisir, c'est...
J'en sais rien, j'en fréquente pas, moi, madame.
C'est
la seule réunion sadomaso que je fréquente, c'est ici. Et franchement...
Non, mais il passait pas par hasard. Ah, il voulait peut-être être sado. Et puis on l'a fait maso. C'est ça. Non, mais c'est vrai.
Il s'est converti, tu penses.
Il y avait que des sados et il nous fallait un maso pour qu'il puisse exister, les sados.
Ah, mon sado.
Donc, ils ont désigné un maso d'office, tu penses.
Voilà.
Non, je pense
pas. Le mec, il a pas eu de chance.
Et ils ont fait pouf, pouf.
Tiens, c'est toi.
Un mec arrive avec un fouet, des ciseaux et un marteau pour cogner sur tout le monde. On lui dit, tiens, pose ça. Hop. Comment là, on ligote ? T'es maso aujourd'hui. Mais non, pas du tout. Tiens, t'aimes pas le cutter ? Ah, le type, il va au commissariat. Déjà, tu te rends compte, aller au commissariat, regarder ce que m'ont fait mes amis. C'est là où il a pris son pied. Mais oui. C'est là où il a pris son pied en disant...
Qu'est-ce que le chef du Parti libéral-démocrate russe, Vladimir Jirinovski, a proposé aux Japonais ?
Ah ouais, alors là, la pire des conneries.
Allez-y.
Et qu'ils allaient tous en Sibérie.
Exactement. Bonne réponse de Christine, bravo.
Alors là, bonjour l'invitation.
Ah ouais. Effectivement, Vladimir Jirinovski a suggéré de proposer au Japon de déplacer sa population dans les vastes espaces inoccupés de la Russie, comme la Sibérie.
Je préfère crever, je te
le dis.
Je préfère être irradié des
pièces. Non, mais c'est gentil de les inviter à Tchernobyl, quand même.
J'ai expliqué à Christine Bravo tout à l'heure quelque chose de complètement inintéressant, mais qui vous a passionné autant que moi tout à l'heure. Je vous expliquais que j'ai vu un truc. Apparemment, s'il y a vraiment une guerre nucléaire énorme, etc., il n'y a que les scorpions qui résisteraient finalement aux radiations nucléaires. C'est-à-dire que tout le monde mourrait sauf les scorpions. Il n'y a que ça qui... Voilà, je vous avais dit que c'était inintéressant.
C'est quoi, je suis capricorne.
C'est incroyable.
Ce sont des arachnides, ce ne sont pas des insectes. Il faut savoir que le scorpion a 8 pattes, contrairement à l'insecte qui en a 6.
Et tout ça, c'est rien par rapport aux 1000 pattes qui en a 1000.
Mais on nous montre des choses terribles dans la presse. Les effets des radiations nucléaires.
Les différents cancers et tout.
Il ne faut pas lire. lire. Ouais, c'est terrible. C'est les conséquences terribles sur la santé, mais faut pas lire. Je vous propose, moi, franchement, faut pas lire ces trucs-là.
Mais pourquoi tu le donnes à Christine?
Parce que de toute façon, c'est foutu pour elle.
C'est comme si on faisait un article détaillé des conséquences des accidents de voiture, avec les bras en moins, les cages thoraciques explosées, voilà, les yeux sur le pare-brise et tout ça. C'est quand même, c'est très démonstratif, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Faut arrêter de se branler quand même.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que je souffre beaucoup.
Attends,
je souffre
beaucoup.
C'est
raisonnable. Faut qu'il y ait des morts pour résoudre le chômage. Oui, non, je permets pas.
Je souffre beaucoup par altruisme pour nos amis japonais. Mais quand je m'aperçois que maintenant le nuage arrive jusqu'en je ne sais où, aux confins de l'Union soviétique, je me dis que si ce nuage est encore accru par une nouvelle explosion, il n'y a pas de raison qu'il nous arrive pas sur la gueule.
Mais
oui, absolument.
Tu te souviens, ça s'est arrêté à la frontière.
Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Tchernobyl s'arrête à la frontière. C'est moi qui l'ai inventé.
Ça, c'est autre chose.
Mais non, c'est vrai, que c'était une émission. Je sais
pas. Le pire, c'est qu'il est convaincu.
Il y avait l'homme qui, le plus grand spécialiste du CEA.
Tu nous raconteras quand t'as marché sur la Lune après.
Qui était là. Alors il a dit, mais non, je pense que ça s'arrêtera en Tchécoslovaquie. Juste, j'ai dit, mais vous croyez qu'un nuage radioactif peut s'arrêter à la frontière? Et il m'a dit, par ironie, je dis ça. Il m'a dit, oui, monsieur. Et depuis, ce malheureux qui a 90 ans maintenant, qui a eu encore un procès, on lui dit, mais vous avez quand même dit que le nuage allait s'arrêter à la frontière. Pour un scientifique, c'est quand même ridicule. Il dit, j'ai pas dit ça exactement. C'est moi qui lui avais dit, il avait acquiescé. Enfin, c'est ça qui me fait rire dans cette histoire.
Ouais, ça nous fait rire aussi.
Mais Pierre, tout le monde l'a dit, ça. Je faisais déjà ce métier à ce moment-là. C'était quelle année, Tchernobyl, à peu près?
Ça fait longtemps.
J'avais été le premier à lui dire ça à la télévision, excuse-moi.
Mais tout le monde, on l'a dit.
Pas tout le monde, n'a pas été le premier. Ah oui, tout le monde. Non mais sérieusement, et pourtant elle tourne, ouais d'accord, mais tout le monde l'a fait.
Mais Pierre, vous n'êtes pas sûr que ce soit vous qui l'avez dit en premier?
Mais oui.
À part dans votre tête.
Je crois bien.
Vous allez briser un rêve là.
Il est quand même incroyable, ce Pierre. Si tu l'écoutes, il a tout fait. C'est lui qui a conseillé à Mitterrand de se représenter.
Pas du tout, je n'ai jamais conseillé à Mitterrand.
C'est lui qui a dit à Kennedy, tu devrais aller en décapotable à Dallas.
Il a écrit un discours pour Luther King à une époque aussi.
Non, mais enfin, écoutez, Pierre, on aime
non,
bien.
Le seul à qui je donne un conseil, c'est De Gaulle.
Ah oui.
Et il m'a dit, je vais à Londres. J'ai dit, alors là, si tu vas à Londres, tu seras oublié en 8 jours.
Elle s'appelle Jeanne, elle a 58 ans. J-A-I-N-E.
Elle n'a pas de plaisir, là.
Elle s'appelle Jeanne, elle a 58 ans. Et parmi 20 candidates, elle vient d'être élue Miss quoi ?
Ah, Miss Cougar.
Miss Cougar. Ah, bonne Miss réponse Cougar de Jérémy Ferrari. Et nous l'avons au téléphone.
Non.
Oh, bonjour, Miss Jeanne.
Bonjour.
Vous allez bien ? Je ne dis pas votre nom de famille, pourtant il est écrit dans la presse, mais je crois que vous ne souhaitez pas qu'on le donne.
Exactement.
Bon, alors je vais pas le donner. Pourquoi vous voulez être discrète sur votre... Vous avez honte d'être cougar ?
Non, je n'ai pas honte, mais bon, mon pseudo suffit. Je
vous
vois
pouvez...
pas...
Vous voilà. Pouvez, c'est Christine Bravo là. Vous pouvez me donner des plans.
Ah, mais c'est quoi les critères pour devenir Miss Cougar ?
Voilà. Comment vous avez été élue Miss Cougar ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ?
Fallait deux défilés. Un défilé en tenue classique et décalée. Un défilé en robe de soirée.
C'est quoi classique et décalé ?
Alors, donc, le classique, le quotidien, et puis le décalé, quelque chose de pas banal.
Alors, c'est quoi le quotidien d'une cougar, la tenue?
Le quotidien, c'est la tenue aussi bien de jean que classe.
Et le petit détail décalé, c'était quoi, alors?
Tourner une situation en dérision, par exemple, ou venir en bleu de travail.
Et vous portez autour du cou une sorte de
laisse,
de gros grain?
Une dent?
Non. Vous savez pourquoi?
Non.
C'est parce que ça s'appelait un suivez-moi, jeune homme.
Ah oui.
Donc, suivez-moi, jeune homme, ça devrait être justement l'emblème des cougars.
Il fallait avoir entre 35 et 65 ans, en tout cas, pour être élu Miss Cougar.
35 ans, c'est pour les dragues des
Et c'est vous, Jen, qui avez gagné. Oh, mais comment vous avez fait la différence sur les autres?
La différence est peut-être venue sur le choix de mes défilés.
Pourquoi le choix des défilés?
Bah parce que je suis partie sur quelque chose qui n'était pas très classique. Donc,
c'est la différence
qui a fait ça. Il y a peut-être un certain charisme aussi, un certain visage.
Excusez-moi,
il y a
je peux vous demander quel âge vous avez, s'il vous plaît, Jeanne?
58 ans.
Ah, pardon, j'ai pas entendu.
Mais là, écoute-moi. Vous avez beau vous moquer, moi j'en ferai mes dimanches. Hein.
Oui, Pierre Bénichou est séduit, Jeanne.
Elle aime les jeunes. Hein,
ce que je comprends pas, c'est qu'il faut que vous prouviez que vous plaisiez aux jeunes, ou il y a quoi en fait? C'est quoi le truc?
Parce alors
que...
oui, votre fiancé, il a quel âge alors?
Il a 40 ans.
40 ans. Ah, donc
c'est
quand
pas
même.
Jeune.
Ah,
c'est pas cougar.
18 ans. Ah, oh, ouais.
Ah, si, 18 ans.
C'est ça la cougar. Hein. Je crois
c'est pas mal.
Il y a une différence entre 17 et 18 ans.
Il y avait qui dans le jury? On peut savoir?
Oh, je suis content d'être vieux.
Oh, vous connaissez pas.
Non, mais. Il y avait qui dans le jury?
Bah, non, ne me dites pas que vous connaissez pas les membres du jury.
Ah, bah, non, non.
Dites-nous.
Secret Story, Dylan, bon, voilà.
Ah, que du beau monde.
Des candidats de télé-réalité.
Mais il n'y avait pas de cougar dans le jury, célèbre.
Non.
Ah, il y aurait pu y avoir Claire Chazal.
C'est dommage. C'est dommage.
Demi Moore.
Amanda Lear.
Et oui, c'est
Madame Chirac.
On aurait pu ramener aussi Edith Piaf.
Amanda Lear, elle est ni cougar ni chacal. On sait pas bien.
C'est sympa d'être cougar. Alors, vous draguez tous les jeunes, alors?
Je ne drague pas tous les jeunes.
Ah.
Elle se fait draguer.
Je me fais draguer et je peux me permettre de sélectionner.
Ah,
arrêtez, on vient de nous passer.
Ouais, mais là, vous,
c'est dans les Vosges que ça marche le mieux.
Vous habitez où, en fait, Jeanne?
J'habite Paris.
Vous êtes parisienne.
Et alors, c'est quoi vos spots de drague à
Faites
Paris?
Faites passer au public Miss Cougar, quand même, que tout le monde en profite.
Oui, il a raison. C'est quoi les spots de drague
les
des cougars
de drague
à Paris?
Des cougars, voilà,
c'est intéressant, ça, pour pas qu'on y aille.
Je suis une nouvelle parisienne. Je n'ai pas besoin d'aller dans des endroits de drague.
Moi, je suis sûr qu'elle passe ses après-midi à Châtelet les samedis, là.
Non, pas du tout.
Mais non, pas du tout. Vous moquez. C'est facile de se moquer d'une cougar. Hein.
Ah, bah non, je me moque pas. Hein, mais vous faites draguer souvent parce qu'on.
Bah écoutez, c'est souvent, oui, que je suis abordée par.
Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait d'être draguée et la montée du chômage?
En tout cas, bravo pour ce titre. Vous êtes la première Miss Cougar. On vous applaudit, franchement.
C'est bien d'assumer.
Merci beaucoup.
Elle avait peur, en plus, de nous parler. Elle avait peur qu'on se moque d'elle et tout. Elle a raccroché, ça y est. Ouais.
Merci.
Ah, merde.
Au revoir. Le tromblon.
Parmi les candidates, quelle était la plus âgée?
Elle est partie. Elle est finie. Elle a fini.
Ça y est, maintenant on peut le dire. Vous avez vu la photo?
Oh non. C'est courageux.
Quand tu vois tous ces vieux cons avec des jeunes de 25 ans, tu leur amènes pas ta tronche.
Je suis pas du tout de votre avis. Elle a du charme.
Ah oui. Je suis d'accord.
Les vieux, ça l'intéresse pas.
Mais Pierre, c'est pas fait pour vous, c'est fait pour Jérémy Ferrari, Jérémy Michalak.
Ah non, je suis homosexuel, je vous le rappelle.
Qu'est-ce qui se passe, Stevie? Pourquoi vous avez un fou rire, je peux savoir?
Parce que j'essayais de lire sur les chocolats de Jérôme Bonaldi, et je commence à lire, et c'est écrit en russe, mais je lisais juste à l'envers.
Voilà.
J'ai eu très très peur un quart de seconde.
Et sur ce, j'ai entendu Kersozo dire quelque chose, une belle formule.
Oula.
Ah oui, il a dit, Stevie, c'est la formule homo de l'idiot du village. Mais il vous aime bien, vous savez, Olivier, quand même.
C'est vrai.
Vous avez de l'affection pour le petit Stevie.
Énormément.
Je vous ai entendu parler géographie ensemble tout à l'heure, juste avant l'émission.
Ah oui, j'avais plein de questions.
C'est
en fait
un vrai boulot, hein, parce que.
Mais oui, parce que suite à la
planète, il te la fabrique. Les endroits sont pas où ils devraient être.
Non.
C'est normal, ça fait quand même depuis l'enfance qu'ils se trompent de sens.
Non, t'es un gros mytho, parce que des fois, je suis le seul ici à pouvoir te corriger sur la géographie, mon cher Olivier. C'est ça qui t'emmerde, en fait. Parce que moi, je suis pas un pignouf.
Il nous fait du pignouf
à qui tu racontes tout et n'importe quoi.
Il nous fait du bénichou maintenant. C'est lui qui va avoir tracé les parcours de Kersozo.
Bien sûr. Alors, il vient me faire corriger sur la géographie. Oh, bah putain, j'ai hâte.
Oh, papa, je te suis. Hein.
Non, parce que vous parliez des grands navigateurs portugais, Stevie.
Oui, ça.
Non, on parlait des courants.
Des courants maritimes. Parce que je sais que de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, il n'y a pas d'échange de vent.
Ah. Donc c'est pas très inquiétant. En revanche, j'avais des suspicions en ce qui concerne les courants marins sur la radioactivité qui retombe en fait. Et je lui disais, mais la radioactivité, elle peut suivre le courant marin. Or, les courants marins, il me semblait que ça pouvait passer d'un hémisphère à l'autre. Et il me dit que non, que les courants marins, ils ne changent pas d'un hémisphère à l'autre. Or, le Gulf Stream, ce que je lui posais la question, et on sait bien qu'il remonte de l'Afrique et qu'il remonte vers le nord et qu'il redescend le long de la
côte de l'Afrique.
Il remonte de l'Amérique du Sud.
Et s'il n'y a pas d'Amérique du Sud, il vient de la mer des Caraïbes.
Bah, c'est pareil.
Il vient de Floride.
Oui, mais les courants marins profonds, je te parle.
Non, mais t'as...
Ah bah écoute, si tu sais pas suivre,
ça c'est les mecs. Les courants marins profonds.
Oui, toi t'es bon en surface, mais pas sous l'eau.
C'est marrant. Ouais, je savais pas que.
Avoir les tenants. Et
je les savais pas qu'il y avait le manuel de Stevie sous-marinier. Stevie sous-marinier vous explique les courants de profondeur.
Mais non, c'est vrai ce que je dis.
Non, mais t'as raison. Stevie sous-marinier présente Le Monde vu par moi.
C'est
une belle série,
c'est mauvais,
ça encore.
Mauvais, Olivier. Enfin bon, bref, voilà, on a parlé longuement.
En même temps, c'est bien d'être passionné comme il est.
Ouais, mais enfin, quand il comprend pas ce que tu lui expliques, c'est.
Oh,
quand
gros
même.
Mytho. Oh là là.
T'as vu quand même dit gros mytho.
Vous avez de la chance qu'ils vous disent pas gros mico.
Il est bon, je passe.
Alan Morris est le président de Anbex Incorporated. Il est en rupture de stock. Pour quelle raison?
Ça n'a pas à voir avec les pastilles de
diode. C'est-à-dire donc
Il est directeur d'une fabrique de pastilles de D'apostrophe iode.
Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Voilà, suffit de le dire.
Ah bah voilà.
Au lieu de dire ça n'a pas à voir, donnez la réponse.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
Franchement.
Je devrais être plus sûr de moi.
Vous en avez, vous, des pastilles d'iode à la maison?
Non.
Personne n'en a.
Je ne sais même pas si c'est utile, franchement.
C'est les choses pour lutter contre...
La radioactivité.
La radioactivité, ouais. C'est ça.
Ouais. Pour les gosses du 93 qui vont pas à la mer, tu leur donnes, ils ont une impression de vacances comme ça. Tu leur mets dans un bon bain, ouais, tu vois, avec un peu de gros sel.
Voilà. Tu leur balances des galets sur la gueule et voilà.
Un peu de fromage
parti.
Blanc pour les mouettes, quoi, dans la gueule, comme ça, et puis ça y est, c'est la plage.
Pas de crabe, donc tu mets quelques cafards, tu sais, dans une coquille de
cerveau vide. Tu vis d'un sablier. Voilà, non. Finalement, la plage, c'est dans la tête.
Tu balances du Nutella, ça fait une marée noire, et voilà.
Non, mais sérieux, est-ce que vous êtes du genre à aller courir, à acheter des pastidiotes?
Oui.
Ah, vous,
moi,
oui.
Je serais complètement du genre, réel. Sauf
mais
que honnêtement,
pour son chien,
j'y
quoi.
Crois pas. Quand je crois pas qu'une pastille puisse me protéger d'un problème nucléaire. Alors si, vraiment, si, il si, m'arrive si. D'être con, si,
c'est
mais
pour
parfois
la,
j'ai
la thyroïde. Le cancer de la thyroïde, tout à fait. Voilà.
Oui,
il faut
enfin,
savoir
attends,
que tous
te
les
protéger
gens...
d'un cancer, si c'est pour en attraper 15 autres, tu vois, garder ma thyroïde, si j'ai plus rien autour, qu'est-ce que ça me fait?
Mais vaut mieux avoir un cancer que trois, ma petite dame. Non, mais tous les gens qui habitent à côté d'une centrale, et je sais, je suis né à côté d'une centrale.
Ah oui.
On a tous des pastilles d'iode dans un placard au cas où, et il faut en prendre en cas de fuite et faire couler des bains et les mettre des pastilles effervescentes et se mettre dedans.
François, enlève
ça n'est jamais arrivé.
Enlève ta troisième main de ma cuisse.
Ce n'est pas ma troisième main.
C'était quoi la centrale nucléaire?
Saint-Laurent-des-Eaux sur la Loire.
Ah oui, quand même.
Très alors. Très belle centrale, très radioactive.
Mais ils en ont parlé dans Envoyé spécial. Il y avait
oui,
tout un truc.
C'est là où on a pêché le plus gros poisson du monde, un gardon de 7,50 m avec mon petit frère.
Et qui était tranché et qui était en plus fluorescent.
Mais
quoi.
C'est affreux ce que vous racontez.
C'est-à-dire qu'on les pêche de nuit parce qu'on les voit.
On les voit.
Ouais, tout à fait.
C'est affreux.
Ah, c'est ça.
Mais c'est la fin du monde en 2012. Je rappelle que dans le calendrier
Maya.
Ah,
non, ça a changé. C'est en 2116 maintenant.
Ah
ils
bon
ont recalculé. Ouais, non, ils ont recalculé le calendrier Maya.
C'est pas vrai.
Ah bon, on a gagné 100 ans de vie.
Ah merde, je baisais sans capote depuis 6 mois.
Claudia Binec est porte-parole et elle vient d'ouvrir un livre d'or. Un livre d'or à destination de qui?
Elle est bretonne?
Non. Madame Binec n'est pas bretonne.
Elle est française.
Elle fait de la politique.
Elle n'est pas française. Claudia Binec.
Allemande.
Est allemande.
Ah oui, alors je sais.
Allez-y.
Alors c'est pour l'ours Knut. Ah, Knut!
Elle est porte-parole du zoo. Et elle a ouvert un livre d'or pour les messages destinés à la mort, à la disparition de Knut, l'ours polaire du zoo de Berlin qui est mort ce week-end.
C'est trop
bonne réponse!
Bravo, Caro. Mais elle connaît bien les ours, Caro.
C'est pas vous, Pierre Bénichoux, parce que on dit que c'est un acte criminel.
On pense que c'est toi.
C'est honteux. Moi, à mon avis, la police va venir vous interroger.
Hein. Non, pas du tout, parce que moi je suis scandalisé par cette chose-là. Comment Knut, c'était un des ours polaires les plus merveilleux, les plus gentils, manger du miel et tout ça. Et de quoi on nous parle, des Japonais? Tiens,
mais c'est un acte.
T'as un ours polaire aussi magnifique.
Non, mais c'est un acte criminel, Laurent?
Alors, il paraît.
Parce que Kadhafi a dit qu'il allait taper fort. Hein,
non, mais là, il est mort à 4 ans et 3 mois. Alors
c'est
que
rien,
non...
c'est rien pour un ours.
Eh oui, normalement, un ours polaire, ça vit jusqu'à 30 ans.
Mais
alors,
bien sûr, moi j'en ai
un. Au moins 30 ans.
Mais ils disent qu'il avait le poil qui jaunissait, c'est mauvais signe.
Il paraît qu'il était dépressif.
Ouais, mais c'est ça, c'est un suicide. Il est rentré dans sa cage, il a mis le chauffage à fond.
Sa maman l'avait rejeté à la naissance déjà.
Ouais, ça c'est moche.
Il a mal commencé.
C'est l'histoire de ma vie. Hein,
son frère jumeau est mort à cause d'une infection quelques jours plus tard, donc il a jamais connu son frère jumeau.
Oh là là.
Enfin, il l'a connu 2-3 jours.
C'était
quoi.
Des vrais jumeaux ou pas?
Je sais pas.
Ils étaient monozygotes ou pas?
Ils se ressemblaient ou pas?
Et puis surtout, il y avait 3 femelles dans l'enclos où il était plus âgé
et il était bébé.
C'est par là que ça arrive toujours.
Dont sa propre mère, Tosca.
Ouais, ouais, qui lui faisait bouffer les pommes.
Qui, de temps en temps, se jetait à sa gorge.
Oh la salope.
Et Knut prenait des coups régulièrement.
C'est tellement mignon à regarder. Enfin, j'en ai jamais vu en vrai.
Ah, moi j'en ai, mais en peluche.
Bah oui. Bah c'est vrai que c'est.
C'est moins dangereux. Hein. Oui.
Comment ils s'appellent vos nounours, Daniel?
Nounou.
Nounou.
Oui, oui.
Et vous dormez avec alors?
Mais il a maintenant un ressort.
À poil, et elle dort à poil avec un nounours.
Il a quoi?
Son ressort intérieur qui est en train de se péter là.
Ah, non, enfin, il a un ressort intérieur.
Ah oui, bah oui, j'ai des ressorts. Et quand on appuie, il fait. Alors que je change
le
ressort.
Elle
le met dans le lit, voilà.
Ah, bah oui.
Son mari.
C'est pas le ressort, c'est la pile qu'il faut changer.
Ah oui.
Mais oui, moi j'ai un chien, c'est. On fait les animaux. Bon, alors. Moi j'ai un chien qui fait quand même, seulement c'est la pile qu'il faut changer.
Moi j'ai un chat. Miaou, miaou.
Ah, moi j'ai une vache, elle fait.
Ouais, non, mais toi t'as pas besoin de.
C'est un miroir, ça, c'est un miroir.
T'as pas besoin de faire le bruit.
Mais ils sont cons. On fait quand même pas une émission animalière.
Ton chien, il fait. Waouh, waouh.
Avec ma fille comme ça. Miam.
Et l'oiseau qui.
Non, écoutez.
Mais c'est cool, attends. Pour une fois que ma fille peut écouter son père à la radio, quoi.
Et la baille, comment elle fait?
Et l'âne. I-an.
Écoute, Rose, ma fille, écoute, il y a papa qui travaille. Hein.
Je vois bien notre plan. Je vois bien notre président, monsieur Hélène, qui est convoqué au prud'homme après avoir licencié toute l'équipe, et disant monsieur, écoutez, je me plierai à la décision du tribunal. Je voudrais seulement vous faire entendre 3 minutes de cette émission l'autre jour. Voilà.
Mais oui, parce que là, franchement...
On croyait que c'était une joute un peu comico-culturelle, comme ça, c'est...
Et comment on fait la carpe?
Ce qui est très difficile, c'est le lapin. Hein.
Ils sont affligés.
Ah ben, le lapin, qu'est-ce qu'il fait, le lapin?
Il fait...
Il mange des carottes.
Le lapin, il fait ça.
Pour ceux qui n'ont pas la couleur, je suis en train de faire...
Le lapin, fait...
La bouche du lapin.
Moi, je sais exactement ce qu'il fait, le lapin. Le lapin, il fait... Quoi de neuf, docteur?
Comment?
Quoi de neuf, docteur?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Quoi de neuf, docteur?
Quoi de neuf, docteur?
Ben oui, c'est Bugs Bunny.
Ben oui.
Ah oui!
Quoi de neuf, docteur?
Non, mais c'est normal qu'elle connaisse pas, parce que c'est un nouveau dessin animé.
Je sais que d'habitude, il est bon, mais pour les animaux,
là. Oh, le surclasse.
Daniel.
Oui.
Pour une fois, vous vous sentez pas dépaysé?
Bon. Pour les animaux? Pourquoi vous dites ça?
Mais enfin, écoutez!
Allez, fais-nous la pétasse, maintenant.
Le meilleur d'OVG, c'est tout ce week-end. La rétro 2011 dès lundi 15h30. À suivre, Europe 1 Soir, présenté par Arlette Chabot. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes à l'écoute d'Europe 1. À très bientôt.
On va se gêner sur Europe 1. La rétro 2011.